Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette troisième édition du Débat des sciences avec le pays carcassonnais. Nous sommes heureux de vous recevoir et nous sommes heureux aussi que nos invités qui vont se présenter aient accepté de pouvoir venir ce soir, peut-être pour nous éclairer, mais aussi peut-être aussi nous permettre de débattre ensemble sur ce qu'est le futur, l'habitat du futur. Alors c'est toute une question, qu'est-ce que l'habitat du futur? Peut-être qu'on aura une réponse sur tout ça, et puis surtout sur du matériel, sur peut-être aussi, est-ce que c'est ce qui va protéger notre planète? Est-ce que c'est ce qui va se passer dans quelques années? Comment ça va se passer? Tout cela, eh bien on va pouvoir le suivre dans ce rendez-vous. Alors d'ores et déjà, je pourrais vous dire que il est déjà prévu d'autres rendez-vous pour le bar des sciences, trois pour le mois de février, le mois d'avril et le mois de novembre, puisque c'est la fête de la science, mais on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette soirée. Alors, ce que je souhaiterais d'abord, c'est peut-être que nos invités se présentent, qu'ils puissent nous dire leur fonction. Ils sont là autour de cette table. S'il vous plaît, messieurs, vous avez un micro à votre disposition, celui, la bonnette jaune, voilà. Vous dire aussi que cette soirée est enregistrée et que vous pourrez la réécouter sur le site du Pays Carcassonnais. Messieurs, bonsoir.
Bien, merci, bonsoir. Donc moi je m'appelle Alain Châtelet, je suis biologiste, je suis enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. Et depuis maintenant un certain nombre d'années, je me préoccupe des problèmes de la relation entre l'espace bâti d'une façon générale et construit, que ce soit à l'échelle du bâtiment ou de la ville, et l'environnement. C'est un engagement aussi un peu militant, au-delà de l'engagement scientifique, qui est né, disons, de l'après 68. Période pendant laquelle on a pu voir émerger un certain nombre de problèmes liés à ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement. Et ayant eu l'occasion donc d'intervenir d'abord de façon très temporaire à l'école d'architecture et puis ensuite de façon plus permanente, je me suis effectivement penché sur cette question-là à une époque où c'était pas forcément si évident que ça, ou lorsque l'on essayait de proposer des solutions dites alternatives, on avait souvent la casquette de l'écolo baba cool et assez difficilement pris au sérieux. Aujourd'hui, les choses changent un petit peu, on ne peut que s'en réjouir. Alors, est-ce que nous sommes compétents ici pour parler de l'habitat du futur? J'espère, oui, parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes confrontés, tout le monde en est conscient maintenant, à un véritable problème au niveau de la gestion de notre environnement, et que l'habitat du futur ne peut se concevoir que s'il prend en compte au moins cette problématique-là. Ça ne veut pas dire, pour autant, qu'il ne doit s'occuper que de cette problématique-là, et je pense qu'on aura l'occasion, sûrement, au cours de cette soirée, d'en reparler.
Merci. Si vous voulez passer le micro à votre voisin.
Bonjour, je m'appelle Luc Flossac, je suis chercheur à l'École d'architecture de Toulouse. Je m'intéresse plus particulièrement aux problématiques de systèmes constructifs et de leur bilan environnemental, avec un focus particulier sur l'utilisation des matières premières d'origine végétale, ou en tout cas d'origine renouvelable, dans la construction. Et par ailleurs, je m'intéresse aussi à tout ce qui a trait aux bilans environnementaux de systèmes constructifs, pour essayer de trouver des solutions qui soient plus satisfaisantes sur le plan environnemental, tout en délivrant des bâtiments plus confortables que ce qu'on a aujourd'hui. Et enfin, je m'intéresse à la problématique de la rénovation, puisqu'en fait, aujourd'hui, on construit à peu près 1% de notre parc tous les ans, et tout le reste, en fait, on vit dedans. Donc on a 99% de nos bâtiments qui sont anciens, ou qui ont été déjà construits, et il va falloir vivre avec. Donc il faut impérativement trouver des solutions pour que ces bâtiments-là soient aussi satisfaisants. Donc l'habitat du futur, c'est aussi l'habitat que l'on a déjà construit.
Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.
Moi, je m'appelle Juan Carlos Rojas Arias. Je suis architecte, enseignant à l'école d'architecture de Toulouse et avec une formation en architecture et développement durable. J'ai une expérience professionnelle en Colombie, qui est mon pays d'origine, et en France. Et je m'intéresse aussi à la question de la rénovation, mais plutôt à l'échelle urbaine, même si ça touche effectivement aussi l'habitat. Mais disons que c'est plutôt la question de renouvellement urbain qui m'occupe. Donc la transformation de la ville et l'espace urbain.
Merci.
Bonsoir, je suis Renaud Barès, donc je suis architecte et historien de l'architecture. Donc je suis architecte au CAUE de l'Aude, donc Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Donc je parlerai plutôt au nom de l'équipe puisque c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc le CAUE, de par ce qu'il défend, architecture, urbanisme et environnement, évidemment défend l'idée du développement durable. Il y a eu déjà une première génération du CAUE avec des gens comme Bob Laignelot, etc., qui ont été des acteurs principaux. Donc il y a une nouvelle génération qui se met en place et qui évidemment y croit aussi. Et évidemment que l'idée qu'on soutient, c'est que chacun a sa part dans le développement futur de cet habitat économe en énergie et qui est respectueux de l'environnement, tant à la grande échelle de l'aménagement urbain que de la petite échelle de la construction, puisque tout est lié, bien entendu.
Merci bien. Je voudrais aussi saluer le travail qu'a fait Valérie Lafont pour que l'on puisse arriver à construire ce débat aujourd'hui. Et puis, je voudrais laisser la parole au co-organisateur qui est Alain Falbar.
J'ai rien de spécial à dire, donc on va être extrêmement rapide, comme d'habitude, passer au débat. Je crois que l'idée de ces barres des sciences ici était, et aussi toujours, d'offrir à la population carcassonnaise des débats qui, en général, portent autour de problèmes qui sont des problèmes de la vie de tous les jours et qui prennent une importance souvent tournée autour de l'écologie et du futur, puisqu'on a parlé dans un premier temps, de l'énergie du futur. On a parlé aussi de problèmes vraiment importants au niveau local, comme le vin. Aujourd'hui, c'est l'habitat qui concerne les grandes métropoles, mais qui concerne aussi tout type de structures, que ce soit des villes, des villages, ou même l'habitat individuel. J'imagine qu'on va aborder toutes ces questions-là à travers vos questions. Voilà, donc tout de suite, je crois qu'il faut se lancer dans le débat. Hein, et pour plus tard, on va essayer donc de proposer de nouveaux sujets qui, pour la plupart, seront encore tournés autour de préoccupations locales, au sens large. Hein. On ne va pas forcément faire un microcosme sur Carcassonne, mais au sens large de l'Aude, du sud de la France et en général, des problèmes liés à la société. On instillera peut-être des barres des sciences de nature, disons, directement scientifique au sens de la recherche fondamentale, une fois de temps en temps, hein, qui seront moins tournées vers des problèmes de société. Mais, par exemple, l'année prochaine, il y a l'année mondiale de l'astronomie, l'année mondiale de Darwin, qui sont des occasions aussi de parler de science de manière plus générale ou plus particulière, suivant la position dans laquelle on se place. Voilà, mais tout de suite, je crois qu'il faut lancer le débat et...
Mais le débat est lancé. Alors je ne sais pas. C'est vrai que c'est toujours très difficile de pouvoir comme ça se lancer. Mais la première question peut construire aussi toutes les autres tout au long de cette soirée. Alors je ne sais pas. Vous levez la main et puis je viens avec mon micro et je vous laisse le micro et je vous laisse la parole. Peut-être la première question que j'aurais peut-être envie de vous poser, moi, c'est quand on parle de l'habitat du futur. Depuis quand on a commencé à prendre conscience qu'il fallait réellement penser au futur et surtout à nos enfants et se dire comment aujourd'hui on va pouvoir le construire? Est-ce que quelqu'un peut me dire d'entre vous qu'est-ce que ça évoque chez vous quand on parle de l'habitat du futur? Monsieur Châtelet? Oui.
Pardon.
Allez, oui, oui, mais je vais vous laisser la parole. Hein.
Je crois que l'habitat du futur, on y a toujours pensé, parce que quand on construit son logement, qui est quand même la première partie de l'habitat, on le construit pour un certain temps. Donc on est obligé déjà de se projeter dans le futur. Alors bien sûr, il y a, en particulier au XIXe siècle, la question du futur qui se pose de façon un peu plus importante qu'elle n'a pu se faire avant. Mais là, il faudrait plutôt que poser la question à des philosophes et à des sociologues et à des historiens. Aujourd'hui, quand on parle de l'habitat du futur, quand on parle du futur d'une façon générale, c'est vrai que souvent on a des pensées ou des projections qui sont liées un peu à ce qu'on a pu lire, à ce qu'on a pu voir au cinéma, à des choses un peu fantasmagoriques.
Science-fiction un peu.
Voilà. Or, lorsque l'on regarde les enquêtes qui sont faites de ci, de là, par rapport justement à ce qu'en particulier les scientifiques pensent de ce que sera le futur, on s'aperçoit que, en tout cas pour ce qui concerne le futur relativement proche, disons à une centaine d'années, hein, c'est déjà un futur assez éloigné pour nous, on ne sera sûrement pas dans cet univers de science-fiction que l'on connaît, disons, qui a été vulgarisé un peu avec Jules Verne et puis ses continuateurs. Et donc, au contraire, aujourd'hui, je pense que quand on parle du futur ou quand on pense le futur, on essaie de penser plutôt dans la continuité. Et Luc disait tout à l'heure qu'il y a aujourd'hui à peu près 1% des bâtiments qui se construisent par an. Et que, effectivement, l'habitat du futur, c'est d'abord celui qui est déjà construit. Donc, il faut se garder un petit peu de vouloir anticiper de façon trop importante. Il faut déjà regarder quels sont nos besoins et nos possibilités à l'heure actuelle. Et à partir de là, on peut se projeter, on va dire, à une trentaine d'années, peut-être, en pouvant avoir quelques hypothèses à peu près correctes, mais faut pas penser qu'on va aller beaucoup plus loin en termes de projection pour rester réaliste.
Monsieur Jetelé, quand on parle d'habitat du futur, on pense notamment aussi à du matériau, du nouveau matériau, à du matériau qu'on a laissé de côté peut-être à un certain moment et que l'on revient. Je pense au bois, par exemple. C'est ça aussi. Et on parlait de la santé. Alors, quand on parle d'habitat du futur, est-ce qu'on peut penser à la santé? Peut-être, madame, vous avez la question à poser, une question à poser à ce niveau-là, peut-être?
Non, j'ai pas de question.
Non, oui.
Mais c'est effectivement une question importante.
Oui.
Aujourd'hui, la santé dans le logement et dans le bâtiment, d'une façon générale, commence à prendre une certaine importance qu'on ne lui connaissait pas il y a encore ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Ça devient aujourd'hui une préoccupation, effectivement, liée au fait que, en particulier, l'utilisation non seulement des matériaux, mais aussi des systèmes, des équipements, et puis aussi des revêtements, etc., peuvent poser des problèmes de santé relativement importants. Alors, les deux grands types de pathologies dans le bâtiment, ce sont les allergies d'une part et les problèmes respiratoires d'autre part. Donc, ils sont liés effectivement d'une part aux problèmes de stress. Donc, ça, on ne peut pas dire que ce soit directement rattaché au bâtiment, mais aussi très fortement lié aux matériaux, aux équipements et à tous les produits qu'on peut utiliser.
Pardon, madame, je vais vous passer le micro.
Je ne suis pas trop d'accord avec vous lorsque vous évoquez que ça fait seulement une dizaine d'années que l'on connaît les conséquences de certains matériaux sur la santé. Bon, moi, je sais que dans les années 70, on parlait déjà des répercussions du plomb sur la santé. Donc, il y avait les peintures, enfin, tous les conduits, et ça continuait quand même à être utilisé. Enfin, entre autres, je parle de ça.
Non, je suis tout à fait d'accord. Pardon.
On le savait déjà.
Je dis pas, ben oui, le problème de l'amiante, etc. Je dis, ça fait une dizaine d'années qu'il y a une prise de conscience beaucoup plus générale et que l'on admet qu'il y a des problèmes de santé dans le bâtiment. Ce sont des choses, à part le problème du plomb dans les peintures, le problème de l'amiante, qui ont été des problèmes très, très ciblés, à part ça, le problème de la santé dans le bâtiment n'était pas véritablement pris en compte, et j'en veux pour preuve qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de médecine du bâtiment, comme il existe par exemple une médecine du travail, ou des médecines spécifiquement liées à un type d'activité ou à une autre. Actuellement, il n'existe pas, à ma connaissance, de service de médecine qui soit spécialisé directement dans les problèmes du bâtiment et en particulier du logement, parce que c'est vrai que sur les activités tertiaires, le fait de l'existence de la médecine du travail, qui est beaucoup plus ancienne, fait que les problèmes sont un peu plus sérieux. Mais pour le logement, actuellement, ce sont principalement les services d'allergologie et les services de pneumologie qui sont consultés en priorité et qui agissent en priorité. Alors maintenant, commence à se mettre en place justement des systèmes de surveillance à l'intérieur des bâtiments de logement et de suivi avec des conseillers. Il y a des équipes qui commencent à se monter là-dessus. Mais c'est très récent, ça.
Merci, M. Châtelet. Je crois qu'il y a une autre question, là.
Oui, c'est tout à fait exact que la prise de conscience est très récente. 10 ans, ce n'est rien par rapport à toute l'histoire de l'habitat. Mais ce qu'il faut savoir, enfin, c'est qu'à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est là où tout a dérapé. Et tous les problèmes que nous avons actuellement sont très vieux. Ils ont été aggravés en plus par les différentes lois sur l'urbanisme qui ont empêché, notamment enfin, ces fameuses constructions en bois parfois, qui ont provoqué ces concentrations urbaines sur un volume minimum. Certes, il y avait des raisons économiques, tout ce que l'on voudra, et qui ont confié, et on en est arrivé au pire, qui ont confié la conception soit de quartier, soit de ville entière à un seul homme. C'est de la folie furieuse. Mais ça, c'est maintenant on le paie. C'est vrai qu'on est obligé d'aller de nouveau en arrière. Mais le problème, c'est que ce n'est pas sur l'habitat ancien qu'il faut se focaliser, c'est sur tout ce qui a été construit depuis la deuxième moitié du XXe siècle. C'est là où les aberrations ont été extraordinaires. Et maintenant, ce qu'on fait, on ne peut plus faire que réparer les dégâts. On ne peut même pas prévoir le futur. On peut essayer de mettre des emplâtres.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, relativement d'accord. Donc en fait, tout à l'heure, quand je parlais de bâtiment ancien, je voulais dire le bâtiment qui vient juste d'être construit et qu'il va falloir rénover dans pas très longtemps. Parce qu'en plus le temps passe, plus le bâtiment est fait pour durer peu de temps. Pendant des siècles, on a construit dans l'espoir de transmettre un bien pendant de nombreuses générations. Et l'économie contemporaine, qui est en fait l'ennemi juré de la sobriété, et l'ami juré du gaspillage, en fait, nous incite depuis 40-50 ans à fabriquer effectivement des objets économiques qui ne durent pas longtemps. Alors que, en plus, le bâtiment est un objet économique particulier, puisque c'est à peu près le seul qui gagne de l'argent en vieillissant. Avec le bon vin, c'est à peu près les deux seuls exemples qu'on peut trouver. Donc effectivement, quand on revient sur la problématique de la santé, l'utilisation massive d'éléments chimiques complexes dans le bâtiment, et puis aussi, on l'oublie, dans l'usage, par les produits de nettoyage, par les produits cosmétiques, par la cigarette, par tout un tas de choses qui font qu'on pollue aussi beaucoup plus les atmosphères avec ces produits-là qu'on le faisait auparavant, par le fait qu'on a des bâtiments qui sont plus étanches à l'air, puisqu'on a des menuiseries plus étanches, donc moins bien ventilées, et donc plus de pollution. Au bout du compte, on arrive en fait à des bâtiments où il semble qu'on a une pollution qui est supérieure à celle que l'on a dans une rue, avec tous les véhicules dans cette rue bloqués à l'arrêt, le moteur allumé. Donc effectivement, on a un souci clair de qualité de l'environnement dans les bâtiments, et en particulier dans les bâtiments récents, malheureusement.
Merci, M. Foulassac. D'autres questions, peut-être enrichir un petit peu, oui.
Monsieur. Oui, moi je voudrais revenir un peu sur la question de départ et un peu en réaction à ce que vient de dire monsieur tout à l'heure sur les faits que c'est à partir de la deuxième moitié du XXe siècle que tout a dérapé. Donc ben, effectivement, on peut placer cette date comme un point de repère parce que c'est toute la réflexion autour de la modernité. Et il ne faut pas oublier que Le Corbusier, par exemple, dans les années 40, il a parlé de la machine à habiter comme l'habitat du futur. Mais moi, je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin. Et bon, je parle sous le contrôle de l'historien, mais c'est plutôt dans la période de la révolution industrielle que, effectivement, toutes les questions de problèmes de salubrité au niveau du logement ont été posées. Voilà. Donc moi, je pense que effectivement, s'interroger sur la question de l'habitat du futur, c'est d'une certaine façon reprendre des questions qui ont été déjà posées. C'est-à-dire cette idée de ce qu'on va construire une nouvelle machine à habiter, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui, avec la technologie et les nouveaux matériaux, on envisage de faire de l'habitat du futur une machine, une vraie machine. Et à ce moment-là, moi, je pense que la question de l'habitat du futur est liée directement à la question de l'habitant du futur. Et c'est là où je pense qu'on pourrait peut-être débattre, parce que moi, je pense que l'habitat qui va être occupé, qui sera réfléchi, beaucoup plus sensible à la problématique environnementale, qui aura intégré des préoccupations actuelles liées à la question de la santé, mais de toute façon, c'est une question qui est rattachée aussi à la façon comment on va habiter ces logements. Et qui va prendre, d'une certaine façon, la responsabilité, la conscience de occuper d'une façon raisonnée et construire d'une façon raisonnée.
Alors,
préciser la machine à habiter.
Alors, la machine à habiter, je suis désolé, je vais peut-être un petit peu défendre Le Corbusier, mais bien sûr que c'était très provocateur, puisque à cette époque-là, c'était la seule manière de se faire entendre, mais l'idée de la machine à habiter était rattachée à l'automobile, où Le Corbusier disait, quand on pose une question très précise comme l'automobile, la machine à se déplacer, on pourrait poser la même question avec l'habitation, et notamment la maison. Mais souvenons-nous quand même ce que défendait Malraux, peut-être la plus belle phrase de Le Corbusier, c'est « la maison est l'écrin de la vie ». Donc c'est quand même tout autre chose. Et très rapidement sur Le Corbusier, il faut savoir que c'est quand même un des architectes qui a toujours prôné la ventilation naturelle, ce qu'il appelle la transaération, donc la ventilation d'un côté à l'autre de la pièce, le soleil pour tous. Donc je ne pense pas que ce soit le bon exemple, en tout cas, à décrier dans les architectes de l'après-guerre. Par contre, je souhaiterais revenir sur l'aspect de la pollution. Une des difficultés aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a pris conscience, mais par contre, en tout cas au niveau de l'industrie, on le rattache pas toujours, voire assez rarement, à l'économie d'énergie. Dans le sens où on se retrouve aujourd'hui avec de nouvelles machines, de nouvelles techniques pour faire des économies d'énergie, qui sont parfois très polluantes. Donc c'est vrai que on sait très bien que l'industrie saisit toujours d'un point de vue marketing ce qui est attendu. Donc on a espoir que les deux se rejoignent, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Et en plus, quand on se retrouve dans de l'habitat ancien, donc de l'habitat qui a été réalisé assez... la difficulté aussi vient de quand on va améliorer cet habitat, comment l'améliorer réellement, et ça donc Luc en parlera sûrement mieux que moi, mais par exemple un habitat qui n'était pas isolé, on va lui rajouter une isolation, est-elle une isolation saine? Ne va-t-elle pas faire perdre une certaine qualité au bâtiment? Par exemple le fait que les constructions en mur de pierre ont une très bonne inertie, donc sont très fraîches l'été. Dès que vous rajoutez un isolant à l'intérieur, vous perdez toute cette qualité-là, et la respiration du mur, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une prise de conscience, mais la prise de conscience uniquement maîtrisée par l'industriel, sans l'idée de rejeter, de dire l'industriel est un mauvais, pas du tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des précautions à prendre. Et on s'engouffre dans l'économie verte, et c'est pour ça que la prise de conscience doit être liée aussi au fait de donner des clés à tous pour bien comprendre ce qui se passe et comprendre ce qu'il faut bien faire, ce qu'il faut moins bien faire. Et dans les matériaux nouveaux, ce qui est assez amusant, par exemple, c'est que la paille soit considérée comme un matériau nouveau, ce qui est absolument paradoxal. C'est vrai que c'est un matériau génial, mais Luc pourrait le dire, c'est un matériau qui n'est pas conforme aujourd'hui dans la construction. C'est un matériau trop nouveau. Alors, il est vrai aussi que l'industrie, pour l'instant, n'a pas pu s'emparer de la paille. On va directement chez l'agriculteur acheter la paille. Donc, on a un circuit très court qui peut gêner du monde. Enfin bon, donc ce sont des questions assez larges.
Monsieur Renaud Barrès, je rappelle qu'il est architecte et historien. Monsieur Flassac.
Oui, j'avais envie de donner un complément par rapport à ça. En fait, il faut beaucoup se méfier à notre époque et dans le monde dit développé de notre fascination pour ce qui est nouveau, ce qui est technologique, ce qui est compliqué. En fait, personnellement, je pense que le futur, c'est la sobriété et la simplicité. Parce que dans une planète qui sera peuplée dans même pas 50 ans de 9 milliards de personnes, donc on va passer de 6 milliards à 9 milliards en 40 ans, dans une planète dans laquelle l'énergie va devenir de plus en plus compliquée à obtenir, et surtout dans une planète qui est menacée par le péril le plus grand auquel était confrontée l'humanité qui s'appelle le changement climatique, eh bien on a un impératif total de sobriété au niveau de la société. Et dans le domaine du bâtiment, on n'y échappe pas, surtout que le bâtiment, c'est 30 ou 40% des gaz à effet de serre en France et globalement dans le monde. Et là aussi, il faut se méfier d'une chose, c'est de la fascination pour la solution universelle, standardisée, qui va sortir des cerveaux des uns et des autres. Ce que nous enseigne l'histoire, c'est que le bâtiment, il est adapté à un moment donné, à un endroit donné et à un usage donné. On ne construit pas une ferme dans laquelle on habite comme on construit un bâtiment de bureau. On ne construit pas une maison individuelle comme on construit des logements accolés, etc., etc. Donc en fait, on a tout un tas de réponses différentes à donner et c'est justement ça qui est intéressant. Et par ailleurs, toujours dans le cadre de la sobriété, à partir du moment où on est capable d'utiliser des matériaux de proximité, on réduit énormément les impacts environnementaux. Et là aussi, les sociétés anciennes n'avaient pas le choix. Elles n'avaient pas de moteur pour pousser les pierres et la terre, etc. Donc elles faisaient avec ce qu'il y avait au plus près. Et ce que ça a d'intéressant dans cette époque d'économie un petit peu chancelante, c'est que plus on a une économie locale qui est forte, qui fonctionne pas en cercle fermé, mais qui fonctionne localement avec des échanges, mais sur l'utile à échanger, pas sur le superflu, eh bien, on a une stabilité de l'économie locale par rapport aux grands déséquilibres qui peuvent venir par ailleurs. Donc, c'est intéressant de tous les points de vue.
Vous parlez d'écologie, vous parlez de la planète. Je me dis qu'aujourd'hui, en France, on a tendance à regarder un petit peu au niveau de la politique politicienne, savoir ce qui se passe de l'autre côté. Mais est-ce que, du côté de l'habitat du futur, est-ce qu'on regarde un petit peu dans d'autres pays ce qui a été fait, ce qui est à prendre ou ce qui n'est pas à prendre? Est-ce que c'est une bonne question d'abord?
Oh oui, c'est toujours une bonne question de regarder ce qui se fait ailleurs. Parce que effectivement, il est important de voir un petit peu au-delà de notre porte palière. Alors, par rapport à ce qui se fait ailleurs, bon, il est clair qu'aujourd'hui, c'est dans les pays anglo-saxons que la réflexion et la pratique sont le plus avancées. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne se fait rien ailleurs. Les pays méditerranéens du pourtour de la Méditerranée se préoccupent aussi de ces problèmes-là. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est que bon, actuellement, une des grandes puissances, aussi bien économique que démographique, qu'est la Chine, on s'aperçoit qu'ils sont en train effectivement de repenser très sérieusement à la fois leur urbanisme et la façon d'aborder la problématique du bâtiment. Alors, faut pas se leurrer, hein, attention, on n'est pas encore en Chine au niveau où, effectivement, au niveau de réflexion, où on est, disons, d'une façon générale, en Europe et aux États-Unis. Mais il n'empêche que aujourd'hui, on peut quand même espérer, voilà, on va dire comme ça, que ce problème se pose et est perçu, en tout cas, au niveau à peu près mondial. Alors après, l'autre problème qui reste, c'est effectivement les économies. Est-ce que les économies peuvent suivre? Et ça, c'est pas du tout évident. Donc notamment si on parle de la Chine, bon, on connaît bien le problème fondamental. Luc parlait du problème du changement climatique. Bon, actuellement, en Chine, il y a une nouvelle centrale à charbon tous les mois. Donc il est clair que ce type de production a un impact énorme par rapport à tout le reste.
Je vais juste me faire le défenseur des Chinois en disant que effectivement la Chine est devenue depuis peu le premier pollueur mondial. Elle est passée devant les États-Unis, mais il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis il y a à peu près 300 millions d'habitants, en arrondissant plutôt vers le dessus. Et en Chine, il y en a juste un milliard et quelques de plus. Donc du point de vue de la consommation d'énergie par habitant, la Chine continue à être relativement raisonnable. Et deuxième chose, il faut bien avoir en tête que la Chine travaille pour nous. C'est-à-dire qu'une bonne partie de la pollution qui est générée en Chine, en fait, c'est notre pollution que nous avons délocalisée en Chine. Donc lorsqu'on s'interroge en fait sur le modèle économique chinois, etc., en fait, c'est le modèle économique que nous avons suivi au 19e siècle. Et d'ailleurs, quand on regarde l'économie de la Chine et qu'on s'y intéresse, elle a exactement le même profil que l'économie américaine à la fin du 19e siècle. Très dynamique, croissance très forte, salaire très bas, patati patata. Donc, en fait, il faut vraiment pas céder à la facilité de dire les méchants chinois, ils sont en train de bousiller la planète. En fait, le carbone qui est dans l'atmosphère, c'est nous qui l'avons mis, avec nos parents et nos grands-parents, en gros. Et donc, effectivement, il va falloir travailler avec les Chinois et d'autres pour trouver des solutions, pour montrer qu'en fait, on peut s'enrichir, devenir être plus confortable, on va dire, je ne sais pas comment le dire autrement, pas forcément être plus riche, mais avoir une vie plus confortable, plus sûre, avec moins d'énergie. C'est un impératif. De toute façon, que ça nous plaise ou non, on ne peut pas y couper, on ne trouvera pas une deuxième planète pour lui pomper l'énergie.
Des questions ?
Aux États-Unis et au Canada, là, les maisons elles sont souvent en bois et elles coûtent deux fois moins cher qu'ici. Est-ce qu'elles sont aussi efficaces, quoi ? Est-ce que, pourquoi ici les prix sont-ils si chers, hein ?
Oui, là on parle argent.
C'est un phénomène général, hein. Il n'y a pas que les maisons qui sont moins chères aux États-Unis. Tout est moins cher aux États-Unis. Ça paraît un peu bizarre, peut-être, mais il se trouve, justement, cet après-midi encore, actuellement, il y a une Canadienne qui est au laboratoire et qui me disait, mais c'est absolument effarant, ici, tout est deux fois plus cher. Donc ça, c'est un problème d'économie générale. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a 80% de la construction qui se fait en bois. Donc, c'est évident que l'économie du bâtiment aux États-Unis est basée prioritairement sur le bois. Bien sûr, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est les buildings qui sont en béton, mais quantitativement et relativement, ça représente finalement relativement peu de choses.
Juste une remarque par rapport aux prix, différence de prix entre les États-Unis ou le Canada et l'Europe. Il faut faire attention aux comparaisons lorsqu'on les fait de manière simple en termes de prix d'achat d'un bien. C'est-à-dire qu'effectivement, aux États-Unis, les taxes, par exemple, en moyenne, sont moins élevées sur les produits de consommation qu'en France. En revanche, quand on regarde le budget d'un ménage américain, il faut regarder qu'il se paie son assurance pour vieillesse. Il se paie sa maladie, etc. Et donc, lorsqu'on s'intéresse, en fait, au ratio qui reste en termes de pouvoir d'achat, c'est pas si favorable que ça aux États-Unis. Donc, là-dessus, il faut quand même relativiser. Par rapport à la construction en bois, il y a une tradition de construction en bois très forte en Amérique du Nord. En France, jusqu'il y a 10 ans, c'était considéré comme la maison des trois petits cochons, et donc, personne n'en voulait. C'est en train de changer. Le bois est en train de devenir à la mode, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Surtout qu'on dispose de bois en quantité relativement importante. Mais là aussi, attention, parce que si l'on se met à gaspiller le bois, eh bien, ça ne passe pas au niveau mondial, à nouveau.
Et pour la santé, est-ce que c'est meilleur le bois ou les moellons ?
Pour la santé, est-ce que c'est meilleur le bois ou les moellons ? Alors, les moellons pas traités, c'est meilleur que le bois traité. Voilà. En fait, le bois traité, et d'ailleurs, il y a une directive qui va s'appliquer, je crois, à partir du 1er janvier 2009, où à peu près tous les traitements qui étaient jusque-là autorisés sur le bois vont devenir interdits. Par la vertu du Saint-Esprit, ce qui était bon jusque-là devient mauvais. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'est pas, ça vous surprendra sûrement pas beaucoup, que la majorité des traitements qui étaient appliqués sur le bois, qui sont en fait des insecticides, sont très nocifs pour la santé. Donc habiter dans une maison avec du bois traité, effectivement, c'est un peu suicidaire. Hein.
Je crois qu'il y a une autre question. Ou...
C'est plutôt une contribution. En fait. Je voudrais revenir sur ce que l'on appelle les matériaux... vous le tenez, d'accord. Les matériaux nouveaux, qui n'ont rien de nouveau. Effectivement, comme vous l'avez dit, pour parler du bois notamment, on a quand même en France, on nous oppose régulièrement les constructions traditionnelles. Et ça, c'est de l'histoire vécue. Quand on demande, par exemple, à un organisme, à une administration que l'on appelle la DDE en France, qui relève plus de Jurassic Park que de l'imagination vers le futur, on leur demande qu'est-ce que c'est qu'une maison traditionnelle dans l'Aude, ils sont incapables de nous répondre. Pour la bonne et simple raison, c'est que la tradition, il faut savoir jusqu'où on remonte. Vous avez parlé du bois. Moi, j'ai vu quand même des photos de la cité de Carcassonne de la fin du 19e siècle, avant que Viollet-le-Duc ne la rénove. Les constructions étaient en bois à l'intérieur. Donc ça veut dire que le bois n'est pas si nouveau que ça. Le bois était fortement utilisé au Moyen-Âge. On a parlé effectivement de la paille et de la terre. Ça, c'est tout simplement du torchis qui était fortement utilisé. Il y a des maisons en Ariège qui tiennent encore debout à ce niveau-là. Alors le problème, c'est qu'effectivement... On peut parler de tout ce qui est construction du futur. On se heurte régulièrement à une administration qui est complètement dogmatique à ce niveau-là. Vous vous présentez un permis de construire dans la Drôme, dans l'Aude, pardon, pour une maison en bois. Vous allez attendre 6 mois et encore, il faudra se bagarrer. On vous renverra systématiquement vers ce que l'on appelle un architecte conseil, qui donne aucun conseil et qui se fout éperdument de... Non, mais je suis désolé, c'est de l'histoire vécue. Le seul critère pour lequel ils refusent des permis de construire, c'est tout simplement parce que le plan n'a pas été dessiné par un architecte, parce qu'il manque un arbre ou une petite voiture à côté de la maison. Vous refaites le même plan en dessinant le bardage, il est accepté. Et tout simplement parce qu'il a fallu attendre 6 mois. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, je crois que dans l'Aude, on a vraiment besoin d'évoluer à ce niveau-là. Je sais que le CAUE effectivement travaille sur le sujet, mais en même temps, la décision n'appartient pas à CAUE. La décision pour les villes de moins de 5000 habitants appartient à la DDE, et donc au préfet, et c'est bien là que réside le problème. Alors, quand on parle de la maison du futur, il faudrait aussi en parler aux administrations qui prennent les décisions. Je vois qu'il y a un législateur en face de moi là-bas. Je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des lois, mais peut-être qu'il faudrait faire avancer le sujet sur des matériaux que l'on dit nouveaux, qui ne sont pas si nouveaux que ça, qui sont tout simplement, on est en train de redécouvrir pour les constructions, et peut-être qui ont un meilleur rendement précisément au niveau thermique, au niveau phonique et au niveau de la santé.
Monsieur Renaud Barabès, peut-être que c'est...
Bien sûr que je suis... directement interrogé. au niveau du Conseil, je souhaiterais simplement dire que malheureusement, nous n'avons pas d'influence directe sur la conclusion d'une instruction d'un permis de construire. Nous défendons bien entendu la construction en bois. Bon, il faut quand même dire aussi que la construction en bois a été interdite dans certains PLU notamment, parce qu'on se retrouvait avec des chalets alsaciens au milieu de l'Aude, ce qui était complètement ridicule. Donc bien sûr, en France, on a toujours tendance à aller d'une extrême à l'autre.
Il y a des masses provençaux au milieu de l'Aude.
Tout à fait. Le néo-provençal va de Brest jusqu'à Antibes, ça gêne personne. Sous n'importe quel toit en tuiles, on fait n'importe quel mauvais projet, c'est évident. Par contre, en tant qu'architecte qui a pratiqué, je peux vous dire que la DDE est beaucoup plus pointilleuse avec un permis d'architecte qu'avec un permis de quelqu'un qui n'a pas d'architecte. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la réalité, et je l'ai entendu de la DDE elle-même, disant si un architecte, on est très pointilleux, on regarde. Et sachez quand même que, je passerai très vite là-dessus, mais que le fameux volet paysager, au départ, n'était imposé qu'aux architectes, ce qui tendait à dire que c'est des architectes qui abîmaient le paysage, sachant qu'ils font 5% des maisons. Donc, voilà. Par contre, au niveau de la recherche, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, il serait nombre de maisons dites avant-gardistes des années 20 seraient inconstructibles aujourd'hui. La Villa Savoie de Le Corbusier serait inconstructible dans 80% des lieux de France. Et c'est vrai que la liberté architecturale est un des moyens non onéreux d'arriver à un habitat du futur économe. Parce que c'est vrai qu'on dit tout le temps l'habitat du futur, pour qu'il soit économique, en tout cas l'industrie nous laisse penser que ça va coûter beaucoup plus cher, on dit toujours 10-20% plus cher, mais une maison bien dessinée, une maison intelligente, ouverte sur le sud, avec les protections d'été, etc., ça ne coûte pas plus cher, puisque de toute façon c'est au niveau du dessin. Donc ça, évidemment que ce sont des choses qui ont existé, qu'on a oubliées, qui reviennent, etc., bien entendu. Donc c'est vrai que, c'est ce que je disais au départ, chacun a sa part dans l'habitat du futur. Il est évident qu'il y a les décideurs, les hommes politiques au moment où ils décident de la rédaction du PLU, etc., parce que l'habitat du futur, c'est aussi un habitat économe en surface. Il faut savoir qu'en 20 ans, on a consommé deux fois plus de surface que les Allemands pour construire nos maisons. Est-ce que c'est bien? On n'en est vraiment pas sûr. Mais nombre de PLU, par exemple, ne permettent pas de construire en mitoyen. Vous avez cette fameuse bande de 3 mètres qui ne sert absolument à rien, qui est complètement inutile, mais qui ne permet pas de construire en mitoyen. Et la mitoyenneté, évidemment, permet de construire avec des parcelles plus petites. Nombre de PLU vous impose une surface minimum, par exemple 1000-2000 m² pour construire, ou un coefficient d'occupation des sols tellement faible qu'il faut une très grande surface dont on ne sait que faire après, etc. Donc c'est vrai que l'effort est à faire à tous les niveaux, il n'y a aucun doute. Je suis d'accord avec vous que la liberté architecturale, mais je ne dis pas seulement de l'architecte, la liberté architecturale est difficile. On a tendance à tout réglementer. Imaginons si dans l'automobile, on avait dit les automobiles devront avoir une capote de torpedo comme les années 20, une taille de pneus qui fasse 12 pouces, jamais plus. Évidemment qu'on n'aurait fait aucun progrès, c'est une évidence. Et en plus, on imposerait, comme on impose beaucoup dans l'architecture, donc dans cette rue, toutes les voitures sont blanches, dans celle qui est de l'autre côté, elles seront toutes rouges. Donc, il y a un respect du paysage qui est évident, il y a des règles minimum qui sont évidentes, mais c'est vrai qu'en même temps, la recherche architecturale, donc qui est indépendante de l'aspect de l'augmentation financière qu'on nous laisse imaginer dans l'économie d'énergie, elle doit absolument être à soutenir.
Excusez-moi, monsieur Renaud Barès, j'avais écorché votre nom tout à l'heure. Je crois que dans le même énoncé...
Oui, non, je voulais poser question autant aux scientifiques qu'aux juristes et aux politiques. Parce que c'est le problème que vous voulez de soulever, au fait, une petite parenthèse, qu'est-ce que vous avez contre les chalets alsaciens, ma femme étant alsacienne. Bien, ceci étant, la question, ne pensez-vous pas que le plus grand obstacle qui existe à l'heure actuelle à l'habitat du futur, c'est le droit de l'urbanisme et les réglementations d'urbanisme? Est-ce que ça ne nécessiterait pas, compte tenu du changement de conjoncture, compte tenu du changement de but, dirons-nous, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire, je sais bien que c'est idéaliste et presque impossible, de refondre complètement le droit de l'urbanisme? Et vous avez parlé effectivement de toutes les contraintes que vous avez en tant qu'architecte et des certaines libertés que vous pourriez vous permettre, mais vous êtes exactement comme le monsieur, vous êtes bloqué. Donc, à qui répond le premier, le scientifique, le juriste ou le politique?
Il y a d'autres sujets peut-être à aborder, monsieur?
C'est sur le sujet un peu. Déjà, le CAUE pourrait présenter son nouveau bâtiment qui va être en paille et en bois. C'est déjà félicité. Après, moi, je pense que c'est l'envahisseur aujourd'hui qui est le plus grand pollueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit en maison individuelle. On s'aperçoit que nos villages sont envahis par des maisons individuelles. Vous pensez que c'est une économie d'énergie? Même si on les faisait en bois. Certaines maisons en bois sont vendues clé en main avec de l'aggloméré, avec des colles très nocives. Après, il faut bien voir que Nouvelle construit à Paris, à La Défense, un bâtiment hyper écologique en verre, en acier. Donc, pourquoi revenir en arrière automatiquement? Pourquoi obliger les gens à vivre au siècle d'avant? Pourquoi l'architecture certains grands architectes ont présenté déjà, quand on voit Le Corbusier qui a fait énormément pour l'architecture, et à son époque, il était critiqué énormément, puisque c'était des bâtiments publics et des bâtiments avec beaucoup de personnes. Aujourd'hui, est-ce que demain, on peut dire aux gens qu'on ne pourra plus construire parce qu'il ne va plus y avoir de terrain à construire? Personnellement, je le souhaite. Je m'excuse, j'habite une maison individuelle. Mais à côté de ça, il faut applaudir les communes qui ont le courage de faire des PLU et les communes qui classent leur village en ZPPUP. Le plus grand pollueur pour moi, ce sont ces lotissements. J'y peux rien. J'habite pas un lotissement. Mais j'y peux rien. Mais on est en train d'envahir vraiment notre paysage. On est en train d'envahir pour le chauffage en maison individuelle. On est contre le gaspillage qu'il y a et en construction et en terrain.
C'est honnête de dire que vous êtes pollueur.
Alors, bon, je vais dire un petit mot sur la future maison de l'architecture et de l'environnement. Donc c'est un projet qui va accueillir le CAUE qui va prendre place en face des archives départementales avec cette idée bien sûr qu'on est pour la densification, donc on réutilise un délaissé entre guillemets actuel. Et ce bâtiment a valeur d'école, bien entendu. Donc l'idée c'est que ça soit à la fois un lieu de recherche au niveau de la construction et que ça soit en même temps un bâtiment qui soit dans sa majorité reproductible. Donc c'est un bâtiment qui est en structure totalement en bois, remplissage en paille, donc toute l'isolation est faite en paille jusqu'à la toiture, avec l'utilisation, la production d'énergie électrique avec le photovoltaïque, et l'isolation et la ventilation et l'accumulation des apports solaires d'hiver sont tels qu'on est à peu près sûr qu'on n'aura pas besoin de chauffage. Donc on nous l'impose d'un point de vue réglementaire, mais a priori, on devrait pouvoir s'en passer, en tout cas, pratiquement toute l'année, avec un bâtiment frais l'été aussi. Donc là, on s'engage, nous, pour montrer que ce qu'on soutient, ça peut se faire. Alors après, au niveau des lotissements, vous avez totalement raison. C'est vrai qu'on a développé en France cette image idéale de la maison à la campagne, c'est-à-dire d'une maison en fait entourée d'un terrain, d'un jardin. Et on a délaissé en grande partie les centres-villages. Et on se retrouve notamment avec beaucoup dans le village ou des maisons abandonnées ou des dents creuses qui sont inutilisées. Et évidemment que tout ça, le lotissement, ça veut dire que ça développe l'automobile, donc la consommation. Bon, ça génère aussi d'autres problèmes, c'est-à-dire que le lotissement lui-même fait venir une nouvelle population. Vous allez voir, tout est lié. Un lotisseur, généralement, crée un type de parcelle, voire deux, une surface précise, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un prix qui sera pratiquement toujours le même, donc un type de population qui va arriver. Donc des gens qui ont le même âge, qui vont avoir des enfants du même âge, qui vont partir en fac au même âge. Donc on va se retrouver avec une population qui va baisser en même temps. Donc vous voyez que la vie du village, la vie de la commune elle-même est influencée directement par le lotissement et par son dessin. Évidemment que l'extension urbaine, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas éviter parce que la migration vers le sud existe. Mais ce que l'on soutient, c'est l'idée d'une migration urbaine maîtrisée. En plus, l'idée aussi que l'on va se rattacher au centre-bourg, parce que nombre de lotissements ne sont que des dortoirs, bien entendu. Et les gens viennent vivre dans un village, ne savent même pas ce qu'est le village, ne connaissent personne. Je ne suis pas sûr qu'ils soient heureux de ça, parce qu'au départ, on est content d'être dans sa maison, mais au bout d'un moment, on va tourner en rond. Et cette relation, elle doit être évidemment facile, donc facile d'un point de vue pédestre, vélo, etc. Ça, ce ne sont pas des utopies, ce sont des choses qui fonctionnent. À partir du moment où vous prenez votre voiture, vous ne rencontrez personne. Vous prenez la voiture, vous allez chercher votre pain, vous allez chercher votre journal, vous n'avez rencontré personne. Donc le lien social, il existe au niveau du pied, bon, au niveau du vélo, parce que c'est un moyen quand même lent, entre guillemets. Je vous montrerai le contraire. Mais donc ça, c'est très important. Et évidemment que ça consomme beaucoup, beaucoup d'espace. Et un autre élément évident, c'est que vous allez dans nombre de lotissements aujourd'hui, vous êtes incapable de dire où vous êtes. C'est le même partout. Mais là, il y a un phénomène lié aussi, pas directement à la réglementation, mais on va dire aux habitudes. C'est vrai que nombre de lotissements, par exemple, sont faits par les géomètres. Est-ce que c'est leur métier de dessiner le lotissement? J'en suis pas sûr. Est-ce que c'est pas plutôt aux paysagistes, liés aux architectes, aux urbanistes? Peut-être que oui. Et souvent, le géomètre, dès qu'il est face à un plan de lotissement, oublie qu'il est géomètre et oublie qu'il y a du relief. Donc, on trace des lignes comme ça, sans tenir compte de ce qui est le passé réel d'un lieu, c'est-à-dire justement son histoire et son relief, etc. Donc, encore une fois, je reviens toujours aux mêmes choses, mais l'effort est à faire d'une manière générale. La difficulté pour l'élu, c'est d'être maître du foncier, parce que quand il se retrouve face à un lotisseur qui est propriétaire, enfin, qui est en train d'acquérir les terrains, c'est très difficile pour lui. Donc la seule marge de manœuvre qu'il a, elle est en amont. Elle est au moment où il va créer son PLU. Alors là, c'est lui qui va établir les règles. Et ensuite, elles seront imposées pour avoir une... Et donc c'est lui qui va établir les zones constructibles, etc. Donc c'est vrai que là, il a une marge de manœuvre qui est très importante. Mais en aval, il a une marge de manœuvre qui est faible quand il n'est pas propriétaire du foncier.
Je vais venir avec le micro. Oui. Je vais venir, excusez-moi, je vais venir parce que on enregistre ce débat et il va y avoir un blanc qui va pas être très joli quand on écoutera sur le site du pays carcassonné. Excusez-moi.
Merci. Oui, pour le lotisseur, lorsqu'il va commencer à vouloir imposer son lotissement à tel ou tel endroit, en dehors du PLU, en dehors du géomètre, est-ce qu'il n'y a pas une instance qui peut lui imposer un architecte pour qu'il y ait un respect de l'habitat, pour qu'il y ait un respect de l'architecture avec un urbaniste, avec vous qui êtes historien, des gens comme vous? Ça éviterait les gâchis, les gaspillages et destruction de régions et de paysages en France. On est en train de perdre toute la spécificité française en ce moment.
Alors bon, c'est une question difficile. Bon, évidemment que le CAUE est une des réponses. Bon, d'abord, d'un point de vue pédagogique, dans les relations qu'on établit avec donc les différents élus, parce qu'un élu ne peut pas tout savoir, hein, c'est évidemment qu'il n'a pas tous les savoirs et que sa difficulté parfois, c'est qu'il se retrouve seul face au lotisseur. Donc c'est vrai que le CAUE est à la charnière entre le professionnel et le décideur, donc je pense qu'il a un rôle évident. Après, une des difficultés, c'est évidemment... Bon, dans le cahier des charges qui est établi, il arrive aussi que l'élu est propriétaire du foncier et que justement démuni, il en donne la décision au lotisseur. Alors là, je vous dirais que Nord et Sud, moi je suis allé récemment voir des extensions urbaines autour de Rennes, donc en Ille-et-Vilaine, qui sont absolument extraordinaires. Et dans des toutes petites communes, avec des élus extrêmement courageux, et notamment un qui a fait un règlement de lotissement un peu plus simple. Il a dit parpaing interdit, récupération des eaux de puits obligatoire, je fournis la cuve, eau chaude solaire thermique, et puis dans le dessin lui-même du lotissement, c'est réutilisation des chemins vicinaux, aucun cul-de-sac. Des choses très simples, très faciles à mettre en œuvre. Le résultat est extraordinaire. Bon, évidemment qu'en plus, ils ont tenu compte, justement, ils ont créé des parcelles bien orientées, avec la possibilité de faire de l'habitat mitoyen. Et rien que le fait d'avoir interdit le parpaing, bon, il n'y a pas que du mauvais parpaing, ça a fait qu'il n'y a eu qu'une seule maison de constructeur. Je ne veux pas jeter la pierre au constructeur, mais c'est vrai que l'idée qui est très difficile à défendre, c'est que la même maison puisse être parfaitement adaptée au climat de Lille et de Carcassonne. C'est absolument impossible. C'est ce qu'on laisse croire aux gens. Mais c'est absolument faux. Donc c'est vrai que...
Est-ce que l'interdiction par plein est...
La question c'était, est-ce que l'interdiction par plein...
Interdiction brique.
Interdiction brique.
Oui. La brique, c'est sonore.
La brique, c'est sonore. Non, c'était plutôt le concept de maçonnerie par plein, c'est ça?
L'utilisation, ouais, de l'eau.
Oui. Juste ce que je voulais, oui, rajouter par rapport, monsieur, à ce que vous venez de dire, c'est... En fait, tout ça, c'est lié au contexte culturel dans lequel on est, où tout est dématérialisé. C'est-à-dire que quand on habite dans un endroit, aujourd'hui, on y arrive, on habitait peut-être à l'autre bout de la France, on connaît absolument rien du climat, on n'a aucune idée des orientations des vents, aucune une idée de même les différences de saison. Est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il y a un vent dominant à telle époque, etc. Et on construit principalement pour pouvoir bien garer la voiture. Donc c'est ce qui, en fait, permet d'orienter la maison. Et donc effectivement, dans ce monde dématérialisé, où on fait en plus du copier-coller de plans parce qu'on a fait récupérer celui du beau-frère qui habite à l'autre bout de la France, eh bien on aboutit à des bâtiments qui sont identiques, et on peut d'ailleurs faire encore copier-coller à l'échelle de la planète, parce qu'aujourd'hui, quand on descend d'un avion quelque part, on ne sait plus dans quel pays on est, et ce qui est vraiment affligeant. Et là-dessus, d'ailleurs, une deuxième remarque, c'est que en fait, en France, on fait relativement attention à la qualité architecturale de nos centres-villes, je veux dire relativement, mais en tout cas il y a des architectes, des ABF, etc. qui s'en occupent, mais dès qu'on sort de là, personne ne s'en occupe. Quand on regarde une zone commerciale, c'est même pas vilain, c'est épouvantable sur le plan de la qualité. Ou une zone artisanale, c'est du bétonnage et de la destruction pure et simple de paysages à grande échelle. Donc en fait là-dessus, on a tout un tas de questions à se poser sur cette dématérialisation de notre pensée dans un monde qui nous amène à effectivement être toujours plus loin de ce qui est tout près de nous.
L'habitat du futur, c'est aussi peut-être le côté soleil.
Exactement. Bonsoir. Soucieux de commettre le moins d'erreurs possible, j'ai acheté ma dent creuse en centre-bourg pour 35 000 euros et je souhaite la chauffer de façon solaire. J'aurai peut-être un petit poêle à bois complètement dissocié du reste du système pour les appoints. Et ma question de ce soir est relative à l'intégration des panneaux solaires à Saint-Pierre-des-Champs. Donc on est à 60 km d'ici, ou 50. Et comment glisser 16 mètres carrés de panneaux solaires au milieu des tuiles canal? Ça, c'était le petit A, le petit B. Que pensez-vous des primes allouées aux panneaux solaires qui ont du coup multiplié leur prix par deux depuis 5 ou 6 ans, et je trouve ça surprenant. Enfin, le fait d'allouer une prime, ça, visiblement, ça altère pas mal le prix des choses, ça nous éloigne de la réalité.
Alors il y a deux questions.
Là dessus, merci.
Bon, il y a deux questions.
Monsieur Barès.
Bon, pour faire court sur le coût des matériaux, il est évident que le même système d'eau chaude sanitaire en Allemagne est pratiquement deux fois moins cher. Dès qu'en France, on a mis 50% de crédit d'impôt, ça a augmenté d'autant. Ce n'est pas nous les responsables. Est-ce que pour autant, il ne faut pas soutenir le crédit d'impôt? Si, parce que psychologiquement, c'est quand même efficace pour que les gens fassent le pas. Malheureusement, on se retrouve... Bon, il n'y a peut-être pas assez de concurrence aussi. La difficulté quand il y a de la concurrence, c'est qu'on se retrouve aussi avec des gens qui ne savent pas les poser. Donc, ils vous laissent croire qu'il faut avoir 100% d'économie gratuite l'hiver, ce qui fait que vous êtes en surchauffe l'été, donc vous allez dégrader votre matériel très vite. Enfin bon, bref. Par contre, lié à la possibilité de mettre des panneaux solaires dans les milieux anciens, alors là, je vous rejoins tout à fait, c'est une très grande difficulté. C'est une difficulté que l'on a dans notre dialogue constructif avec l'architecte des bâtiments de France. Je dis constructif parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce sont des gens ouverts. Mais c'est vrai que trouver le bon compromis entre la préservation d'un hypercentre qui reste quand même une minorité par rapport à toute la dégradation qui est autour, et le fait de rendre accessible à tous les économies d'énergie et le développement durable, c'est très complexe. Alors nous, donc le Pôle Énergie 11 organise le 5 décembre une table ronde en grande partie là-dessus au Conseil Général, et c'est vrai que c'est une question qui n'est pas tranchée et qui est national, qui n'est pas lié uniquement à l'Aude, puisque la réponse est pratiquement similaire dans tous les territoires protégés de France, où les bâtiments de France ont des réticences à faire accepter. Alors ce qu'ils défendent souvent, c'est que pour un projet où les panneaux vont être très bien intégrés, où ça va être très propre, il y en aura 90 qui seront faits par des professionnels des panneaux, mais surtout pas de l'architecture, et ça va être très mauvais. Donc ils en acceptent un, après c'est fini. La porte est ouverte et on est obligé de tout accepter. Donc c'est là une grande difficulté.
Oui, pardon. Oui, je suis obligé de partir, excusez-moi, mais en tant que sociologue et ethnologue, je voudrais quand même parler des structures. Je voudrais dire qu'il faudrait d'abord respecter les pays et en sortir de ce régime jacobin qui, depuis des siècles, nous opprime et nous force à la standardisation.
à l'uniformisation des cultures et de tout ce qu'on peut imaginer comme organisation centraliste. Du point de vue de la planète, la mondialisation agit dans le sens de l'uniformisation, de la standardisation, accentue donc ce qui se passe ici et ailleurs en Europe. Il faudrait d'abord respecter les peuples nomades, ne pas les obliger à se sédentariser, parce que c'est la mort de leur culture, entre autres. Voilà. Les peuples autochtones peuvent nous enseigner ce que serait le futur si on gardait les valeurs traditionnelles qu'ils ont. Ils peuvent être nos professeurs en matière d'habitat du futur.
Je ne sais pas si c'est un avis que vous partagez. Oui.
Oui.
Au revoir, monsieur.
Je pense que par rapport aux enseignements du passé, oui, il est clair qu'on a effectivement beaucoup à apprendre, mais ça, je pense qu'on essaye de le faire déjà depuis un certain temps. Il faut quand même regarder les choses en face. Maintenant, c'est effectivement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on ne peut pas construire de la même façon que quand on est à Carcassonne ou à Lille ou ailleurs. Donc, ça, je crois que c'est quelque chose maintenant qui est assez bien compris. Maintenant, effectivement, l'inertie est telle qu'avant qu'on ait véritablement des réponses par rapport à ça, il faudra attendre un certain temps. Mais il faut être aussi un petit peu patient, malheureusement, parce que les choses ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Par contre, moi je voudrais quand même revenir un petit peu sur cette question de l'habitat individuel et du lotissement. Il est clair là aussi que bien sûr, on ne pourra pas continuer à miter comme on fait actuellement le paysage, non seulement parce que, au point de vue énergétique, ça pose des problèmes, mais aussi parce qu'on utilise des terrains qui seraient sûrement mieux utilisés, notamment avec une production agricole appropriée, même si en termes de production alimentaire, on arrive à produire suffisamment, eh bien, on se rend compte, et Luc pourra en parler, qu'il y a aussi d'autres possibilités d'utilisation. C'est vrai que c'est un peu dommage de constater qu'on a encore aujourd'hui des obligations de jachère. C'est quand même une question aussi qu'on peut se poser. Mais le problème de l'habitat individuel, c'est aussi lié au fait que depuis une trentaine d'années, hein, Monsieur Chalandon a commencé à instituer une politique de logement individuel. Et puis, de ce fait, c'est devenu la demande majoritaire en termes de logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait des enquêtes auprès effectivement des usagers, eh bien, quand on demande quel est votre logement idéal, c'est la maison au milieu du jardin. Ça, c'est clair. Ça ressort systématiquement. Il est vraisemblable que c'est un modèle qui nous a été relativement imposé, parce qu'il y a des pays où ça ne se pose pas du tout de la même façon. Il y a des pays où le logement individuel est obligatoirement un logement à coller, au moins à coller. Ceci dit, il faut faire attention à ça, c'est que la densité, bien sûr, elle est nécessaire pour éviter de gaspiller le terrain, éviter de gaspiller l'énergie, mais elle ne peut se concevoir que s'il y a des équipements qui sont également adaptés, et en particulier en ce qui concerne l'implantation de transports en commun. Parce qu'on peut très bien avoir un habitat très dense et avoir des conditions de vie absolument épouvantables, ne serait-ce que parce qu'il y a trop de densité, et ne serait-ce que parce que, justement, il n'y a pas les moyens de déplacement appropriés. Moi, je reviens d'Hanoï, là, actuellement. J'y étais la semaine dernière. Je peux vous dire qu'Hanoï, c'est une ville dense. Hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est aussi une ville qui est extrêmement polluée. elle est beaucoup plus polluée que toutes les villes françaises, même les plus polluées actuellement. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a très peu de transports en commun. Il y a un service de bus qui fonctionne encore à peu près correctement. Mais par rapport à la quantité de population et à la densité, c'est peanuts. Donc, comme le... Bon, alors, on a l'habitude de voir les villes d'Asie avec ces multitudes de vélos. Il n'y a plus de vélos dans les villes d'Asie. C'est au minimum des motos et de plus en plus des voitures. Et des 4x4, bien sûr. Parce que...
Vous voulez dire, M. Châtelet, que l'avenir de l'immeuble, la construction verticale, ce n'est plus la maison du futur ?
Alors, justement, je voulais venir un petit peu là-dessus, puisque... J'ai entendu parler de notre nouveau prix Pritzker, hein, qui est l'équivalent du Nobel de l'architecture. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème des tours, ce qu'on appelle les immeubles de grande hauteur, revient de plus en plus au devant de la scène. Et on voit apparaître ici et là les plus grandes tours et les plus écologiques du monde. Donc, je ne sais pas où vous avez vu que le bâtiment de M. Nouvel est un bâtiment écologique, mais là se pose le problème de ce qu'on appelle l'évaluation environnementale. C'est-à-dire qu'on a malheureusement aujourd'hui énormément de bâtiments et de production de bâtiments qui sont auto-déclarés écologiques, en vertu de quoi on n'en sait strictement rien. Parce que ça, c'est pas nouveau. Hein. Je veux dire que le discours, alors là, malheureusement, des architectes, il faut bien le dire, ben, souvent, c'est un discours a posteriori qui permet effectivement de dire, ben voilà, j'ai fait ça, j'avais cette idée-là, et c'est merveilleux, c'est la plus belle chose du monde, et personne ne vient vérifier ou n'est même en capacité de vérifier si ce qui est dit correspond effectivement à la réalité. Donc, le problème des bâtiments de grande hauteur, c'est vrai que a priori, on pourrait se dire... Ben, c'est effectivement une bonne solution. On va occuper le minimum de terrain et on va permettre un maximum de logements sur ce terrain. Mais là, on inverse le problème. C'est-à-dire que pour alimenter ces bâtiments de grande hauteur, eh bien, il faut des systèmes de transport verticaux cette fois-ci, hein, donc des systèmes d'ascenseurs entre autres, qui sont extrêmement énergivores. Ensuite, il faut réguler les problèmes de ventilation. Alors, puisque je ne vais pas m'acharner sur Nouvelle, mais comme il se trouve qu'on en entend beaucoup parler et qu'il est effectivement autoprogrammé architecte écologique, encore faut-il savoir ce que c'est que l'architecture écologique. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, ça, c'est un autre débat. On dit que par exemple, la tour qu'il a construite à Barcelone fonctionne en ventilation naturelle. En fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où effectivement on arrive à avoir de la ventilation naturelle. Mais on est actuellement dans l'incapacité totale de gérer un bâtiment de grande hauteur sans avoir de la ventilation mécanique. Et quand je dis ventilation mécanique, je suis gentil parce qu'il faut un système de climatisation la plupart du temps. Et donc on sait aussi que les systèmes de climatisation, outre les aspects polluants, sont extrêmement énergivores. Donc, c'est toujours pareil, il faut savoir raison garder et trouver des moyens termes. Il y a aussi l'aspect tout simplement de l'échelle humaine. Hein. C'est-à-dire que si effectivement à Manhattan ou dans certains quartiers, on peut accepter une concentration d'immeubles de grande hauteur parce que finalement ça procède d'un certain type de paysage urbain qui est acceptable. C'est sûrement pas acceptable absolument partout et de façon systématique parce que, ne serait-ce qu'en termes d'utilisation des ressources, aussi bien en matière qu'en énergie, eh bien, c'est rarement très bon au niveau du bilan environnemental. Et ça n'est pas bon non plus au niveau du bilan de l'occupation humaine et de... ce qu'on appelle d'une façon générale le cadre de vie. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention. Il est vraisemblable que la densité s'accommodera vraisemblablement de petits collectifs ou de logements individuels accolés au minimum. Enfin, là aussi, comme disait Luc tout à l'heure, il y a énormément de solutions possibles en fonction des problèmes et de la façon dont ils se posent localement et en fonction d'une économie locale, d'une demande locale et d'un type d'activité particulier.
Je ne sais pas si on va rester sur le même sujet avec monsieur.
Non, bonsoir. Je voudrais savoir où est-ce qu'on peut trouver une source d'information fiable, objective, parce qu'on peut entendre des campagnes publicitaires à la radio, notamment vantant les bienfaits du bloc béton, et après se faire massacrer sur n'importe quelle émission d'Arte ou Égal M6 ou des trucs comme ça qui massacrent le bloc béton. Donc, je ne suis pas trop béton, mais où est-ce qu'on trouve... Bon, ça c'est ma première question, après j'en aurai une autre plus juridique, mais bon. Déjà une source d'information fiable.
Alors je vais essayer de vous aider.
C'est une question en béton. Ouais.
Une de mes spécialités, c'est de comparer des solutions constructives sur le plan environnemental. Donc, sur le plan du bloc béton, puisqu'on en parle, du bloc creux en béton, ce n'est pas catastrophique sur le plan environnemental parce que c'est un peu de sable, un peu de gravier, beaucoup de vide et un peu de ciment. Le ciment, ce n'est pas très bon sur le plan environnemental. Gravier et sable, ce n'est pas formidable non plus parce qu'on abîme les rivières. Mais ce n'est pas ultra catastrophique. Lorsqu'on prend du béton plein, c'est beaucoup plus mauvais. Lorsqu'on utilise des isolants à base minérale ou à base de pétrole, c'est bien plus mauvais. Lorsqu'on a des matériaux synthétiques, c'est aussi bien plus mauvais. Donc en fait, il ne faut pas regarder les choses de manière simpliste. Mais effectivement, en tout cas, on sait aussi qu'on a aujourd'hui des matériaux beaucoup plus proches de leur état naturel, massivement disponibles. Donc, moi, je suis membre du réseau français de construction en paille, par exemple, et on a calculé que si on construisait tous les bâtiments des logements collectifs, individuels et collectifs en France aujourd'hui en paille, donc ça fait à peu près 500 000 logements par an, eh bien, il suffirait de 5% de la production de paille annuelle en France pour les construire. Donc, en termes de ponction sur les ressources naturelles, en fait, c'est tout à fait raisonnable. C'est tout à fait raisonnable, tout à fait supportable par notre agriculture et tout à fait en plus intéressant sur le plan économique parce que ça fait des revenus supplémentaires pour les agriculteurs. Donc on a des solutions. Alors comment comparer? C'est un peu toujours pareil, il faut se renseigner. Malheureusement, je ne peux pas vous dire autre chose. Vous avez des bouquins qui sont de qualité. Alors je vais faire la pub pour un bouquin, deux bouquins de Jean-Pierre Oliva qui s'appelle « La conception bioclimatique ». Pour l'un, et ça c'est pour la conception des bâtiments, et pour l'autre, l'isolation écologique. Vous avez là aussi un grand nombre de comparaisons de systèmes constructifs environnementaux. Et puis après, beaucoup de sites d'associations militantes dans l'éco-construction, etc. Donc vous avez vraiment la chance que l'on a aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans ou 20 ans, c'est qu'il y a beaucoup de publications. Alors effectivement, il y a aussi beaucoup d'autoproclamations. Et je me suis amusé avec les étudiants l'autre jour à passer en revue des bâtiments dans un bouquin qui recensait des réalisations écologiques. Et en fait, c'était souvent des réalisations ultra technologiques. Et quand on faisait leur bilan environnemental, il était catastrophique. Donc là aussi, en fait, il faut rester sobre, faire simple. Des tours d'un kilomètre, on n'en a pas besoin. C'est clair, à part pour faire plaisir à quelques architectes et à quelques grands capitaines d'industrie, mais pour le reste, la population n'en a pas besoin. Donc en restant raisonnable, déjà, ça va beaucoup mieux. Et ensuite, la nécessité de la proximité, à partir du moment où on utilise des matériaux proches, eh bien, du coup, on réinvente une architecture qui est faite avec des matériaux proches, donc du coup, qui a un caractère local, qui n'est pas forcément celui qu'il y avait un siècle auparavant, ça c'est pas très important, mais qui a à nouveau un caractère local et qui fait fonctionner une économie locale utilisant des produits locaux, peu transformés, peu cuits, etc. Donc tout ça, ça peut marcher.
Je voulais juste signaler qu'en partenariat avec le Bar des Sciences, c'est la librairie Bréteau qui vous propose aussi de nouveaux ouvrages qui sont disponibles sur l'habitat. Alors, autre question, peut-être continuer. Attendez, alors je vais venir, mais peut-être vous voulez compléter.
Un petit mot, je vais être obligé de parler du CAUE, bien entendu, puisque c'est un conseil neutre, gratuit à tous les particuliers, et en plus, évidemment, qu'on fait de la formation. Alors Jean-Pierre Oliva, on l'a fait venir l'an dernier, malheureusement, il y avait que 20 places qui ont été prises tout de suite. Évidemment que tout le monde était ravi de son intervention, c'est quelqu'un d'extrêmement pertinent, et en plus, il parle de ce qu'il fait
Donc, c'est pas seulement l'ivresque, c'est réellement ce qu'il a expérimenté. Donc, ça, c'est essentiel. Et puis, il y a aussi, je suis désolé de dire tout ce qu'on fait, mais on fait aussi, avec l'espace Infoénergie, on fait des visites de bâtiments exemplaires. Donc là aussi, les places sont limitées, mais je vous invite à vous renseigner. On fait à peu près une visite par mois où on va voir une installation solaire, le chauffage à bois granulé, etc. On fait intervenir des gens compétents, donc comme Luc, etc. Donc, c'est une des solutions pour avoir un avis neutre. Et c'est vrai que, donc on reçoit à peu près 600 particuliers par an. Et on est parfois effaré devant ce qu'ils nous montrent qu'on leur a vendu comme extraordinaire. Et bon. Voilà. Donc c'est une des solutions. Il y en a d'autres, mais je ne peux pas ne pas le dire.
Monsieur avait une deuxième question, mais je vais revenir très rapidement.
Oui, c'est juste une petite chose. Le monsieur cherche des documents. Au Pays Carcassonnais, nous avons fait une charte du bâti carcassonnais. Vous pouvez obtenir ce petit bouquin au Pays Carcassonnais. Vous avez toutes les entreprises qui travaillent écolo dessus et vous avez tous les renseignements sur le bâti. On a mis 2 ans pour le faire. Il est peu connu. Mais vous pouvez vous le prendre, vous le procurer au Pays Carcassonnais.
C'est où ?
Carcassonnais ? C'est où ? C'est à l'ancienne DDA, là.
14 rue du 4 septembre. Une question, peut-être, vous voulez... Oui, conséquence juridique, alors je vais vous tendre le micro pour qu'on puisse enregistrer aussi tout ce que vous avez...
Le problème, on a vu bon, que c'est primordial, puis ça représente 40%, on parlait d'émissions, etc. Moi, je suis stupéfait, et au contraire du monsieur qui est tellement nomade qu'il est parti, c'est que la décentralisation, à mon avis, est la cause de tous ces lotissements, il n'y a même pas de mots pour les traduire, quoi, qui ne ressemblent pas du tout à ce qui peut se faire dans chaque région, dans chaque habitat, etc. Comme vous disiez, une question de moment, de lieu et de fonction. Tout ça pour dire, est-ce qu'il n'y a pas... en création, une instance nationale supérieure qui va diriger, qui va dire, voilà, maintenant, on récupère l'eau, qu'on soit à Dunkerque ou à Menton, même s'il y en a un peu moins. Mais le problème, c'est qu'on a donné du pouvoir et des compétences à des gens, au point de vue local, qui sont retrouvés avec des pouvoirs énormes et des stratégies à mettre en place sur quelque chose qui prenait de la valeur, comme le terrain, et qui ont fait n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Et il y a très peu de réalisations, à part peut-être du côté de Rennes. Mais bon, dans la région, c'est catastrophique. Autour de Carca, il suffit, si on arrive soit... voiture, en avion ou quoi que ce soit, peu importe, ou un monde bien plus écologique, monter à pied sur des pics, c'est catastrophique. Et c'est là pour un moment, malheureusement. Quoi.
Moi, je ne crois pas que le problème, ça soit local ou national. En fait, le van de l'histoire en France, il va vers plus de décentralisation. Et globalement, personne ne s'en plaint, puisqu'on était un pays qui était plutôt traditionnellement trop centralisé. Donc on revient vers plus d'équilibre par rapport aux grandes démocraties qui nous entoure. Donc ça, c'est pas forcément mauvais. Par contre, ce qu'il y avait et ce qu'il y a toujours dans notre société, c'est que on fait, et c'est normal pour toute société, on fait ce qui est le plus facile. Et ce qui est le plus facile dans une société où l'énergie n'est pas chère, c'est de la gaspiller. Donc on fait des bâtiments qui sont trop grands, qui sont loin les uns des autres, pour lesquels il faut utiliser une voiture, etc., etc., etc. Et en fait, à partir du moment où cette logique-là se réduit, voire s'effondre, eh bien, on va tomber dans une autre logique. Et si on a des acteurs locaux ou des acteurs nationaux qui s'en préoccupent, ils réagiront à peu près de la même manière. Ils raisonneront avec le nouveau contexte. Le général de Gaulle disait « Il n'y a pas de politique en dehors des réalités ». Voilà. Eh bien, lorsque les réalités changent, la politique change. C'est obligatoire. Mais il va falloir... Alors, c'est vrai que c'est bien d'anticiper. Mais ça aussi, c'est une des particularités de l'homo sapiens, en tout cas développé, moderne, c'est qu'en fait, il attend les catastrophes pour réagir. Donc, en fait, on sait effectivement qu'on est devant un mur sur le plan énergétique et sur le plan climatique. Et pourtant, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, tout le monde fait du bouche-à-bouche à l'économie mondiale pour essayer de la relancer, en fait. Ce qui est surprenant, par exemple, c'est que l'économie mondiale s'effondre de crédit trop facile et propose du crédit zéro pour relancer l'économie qui est morte du crédit trop facile. Donc, en fait, c'est assez curieux, mais on continue quand même toujours à essayer d'avoir le pied sur l'accélérateur dans un bateau qui coule. On n'écope pas. C'est curieux. Voilà.
Alors, moi, j'irais tout à fait dans le sens de Luc. Justement, l'exemple que je donnais tout à l'heure de cet élu qui a pris son courage à deux mains et qui a fait un règlement de lotissement extrêmement court,
il est évident que si on lui avait imposé d'en haut la règle, il n'aurait pas eu cette marge de manœuvre. Alors évidemment, c'est toujours dangereux d'avoir une liberté, mais c'est la seule manière d'avancer. Et c'est justement au niveau local que les choses bonnes se mettent en place. C'est vrai qu'il y a on impose des choses d'un point de vue général, aujourd'hui, notamment par le crédit d'impôt. Maintenant, on a 25% de crédit d'impôt si on récupère les eaux de pluie. Mais dès que vous achetez la même fosse qu'avant, récupérer de l'eau, maintenant, dès qu'elle est qualifiée, elle est 25% plus chère. Bon, c'est toujours le même problème. Mais c'est vrai que cette liberté donnée à l'élu, entre autres, évidemment que c'est un risque parce qu'il y a des élus qui ont fait de mauvaises choses, mais c'est le fait d'être dans le local, ça veut dire que la répercussion est directe, que en plus, à la limite, il ne peut pas se défausser en disant ça vient d'en haut. C'est justement, il est responsable. Donc, étant responsable, il fait rien, ou alors il a du courage et il fait. Et bon, il y avait des choses très bien autour de Rennes, mais il y en a des très bien dans le Lot, il y en a aussi dans l'Hérault, etc. Enfin, les choses bougent. Évidemment que c'est. On a tendance à suivre, ça c'est la nature humaine. Mais moi j'ai vraiment dans le sens de Luc, c'est la décentralisation, de ce point de vue-là, moi je ne la vois que bénéfique.
Et je rajouterai une deuxième chose sur les effets pervers aussi de la centralisation, mais en fait, que l'on peut combattre, c'est dans le domaine des produits de construction. Aujourd'hui, lorsque vous voulez diffuser un produit de construction, vous êtes soumis à toute une série de réglementations, ce qui n'est pas anormal du tout. Et puis, vous avez un certain nombre d'essais, etc. à faire, plus tout un tas de déclarations. Vous êtes conforme à des normes, patati patata. Simplement, pour prendre connaissance des normes qui s'appliquent à un produit de construction, vous allez devoir débourser, simplement pour lire les documents, vous allez débourser quelques milliers d'euros. Pour faire les essais, vous allez plutôt passer à l'ordre de la dizaine de milliers d'euros. Pour faire la validation complète de votre produit, vous allez passer plutôt à l'ordre de la centaine de milliers d'euros. De fait, on a là une machine à tuer les petites entreprises. Et en France, effectivement, on a un historique où on massacre de la petite entreprise depuis 50 ans, pour faire quelques géants de la construction en particulier. Et on a traditionnellement des PME qui sont de faible taille, qui ont peu de capacités innovantes du fait de ce contexte réglementaire. Donc là aussi, on a à nouveau l'effet pervers d'un État jacobin, où en fait, il y a un intérêt commun entre les grandes sphères étatiques et les grandes sociétés. Et ça aussi, c'est dommageable à l'économie globalement et à l'écologie. Donc, à nouveau, je prenais l'exemple allemand ou autrichien, où on a fait par exemple le pari de l'artisanat de qualité, on a des PME de qualité. Et bien aujourd'hui, par exemple, l'Allemagne a un commerce extérieur aussi qui est plutôt bien meilleur que le nôtre et qui ne dépend pas simplement d'une exportation de un ou deux Airbus chaque mois. En fait, quand vous regardez le commerce international français, il dépend des exportations d'Airbus. Oui, les grandes causes communes, vous avez raison, sur des objectifs nationaux ou mondiaux, en fait, on est d'accord qu'on est bien sur la même planète et qu'on a a priori à peu près les mêmes intérêts.
Ouais. L'habitat du futur fait réellement débat et je crois qu'on va poursuivre avec monsieur.
Oui. Moi j'ai une remarque et puis une question. Je suis alors chercheur au CNRS aussi, mais pas du tout dans ce domaine-là. Je suis dans les plasmas et les nanomatériaux, dont les plasmas tout le monde le connaît, par les écrans, mais c'est pas du tout ça. Avec des plasmas, on peut faire aussi des couches très minces. Alors c'est pas des grosses couches comme avec des parpaings ou du bois, etc. Mais c'est des couches minces. Et que dans ce milieu-là aussi, on s'interroge beaucoup et on prend en compte, notamment quand on est dans des programmes européens ou plus internationaux, de tout ce qu'on appelle life cycle analysis, c'est-à-dire tout ce qui va être la prise en compte du cycle de vie, notamment des matériaux et dans sa globalité. Et on retrouve, et alors je suis pas surpris, mais bon, je trouve qu'il y a je retrouve tous les parallèles dans mon domaine, dans le domaine de l'habitat. Alors ma question, elle n'est pas du tout ça, c'était juste pour dire que, en fait, sur l'habitat, on retrouve tous ces problèmes-là dans tous les domaines scientifiques, écologiques, urbains, humains, etc. Alors moi, ma question pose sur qui dit habitat du futur, ou futur en général, dit génération future, dit formation des générations futures, et donc formation aussi aux techniques du futur. Alors je suis venu ici, c'est le seul représentant avec mon fils, ici, qui est en première STI au lycée André aussi à Castelnaudary, Et donc je l'ai un peu poussé parce qu'au début il m'a dit qu'est-ce que c'est ce truc, je veux pas venir, il y a que des vieux. Bon, donc je l'ai poussé. Bon, d'ailleurs je le remercie parce qu'il a fait quand même cet effort et c'est le seul ici dont il doit se sentir un peu seul. Mais donc.
Vous voulez dire qu'il y a beaucoup de vieux ?
Non, 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 je suis dedans, je me mets dedans. Non, je me mets dedans. Enfin bon, il faut dire quand même que lui, il est quand même très jeune là-dedans. Donc dans ce contexte-là. Dans ce lycée-là, qui est un lycée qui est vraiment spécialisé dans le génie civil et l'habitat en général, bon, et là je pose la question, qu'est-ce qu'on fait en fait au niveau de la formation de ces jeunes-là pour, en relation avec l'habitat du futur, donc je dis les constructions du futur, les matériaux du futur, l'architecture du futur, l'environnement du futur, etc. Et je pense que, bon, quand je vois les matières qu'on lui enseigne ça, ça reste quand même très traditionnel, entre guillemets, puisque c'est du béton, du ferraillage, comment on construit tel et tel type de bâtiment, etc., etc. Bon, il y a des trucs standards, on fait des tranchées, on fait, etc. Bon, tout ça, il faut l'apprendre, évidemment. On regarde les terrains, on fait du nivellement, on fait tout un tas de mesures. OK. Mais comment et quand vous pensez qu'on doit prendre en compte tout ce dont on vient de parler en termes donc de matériaux, d'habitat, d'environnement et de vie aussi, et de vie. Donc est-ce que c'est dans ces lycées-là que ça va se faire? Est-ce que c'est déjà pris en compte? Ou bien est-ce que les gens, quand ils sont à un certain niveau, peut-être dans des écoles d'ingénieurs plus tard, ou les gens qui sont vraiment sur le terrain, qui vont faire les maçons ou les entrepreneurs, est-ce que, moi j'ai l'impression qu'on est encore avec une formation sur le tas. C'est en gros, débrouillez-vous, apprenez sur le tas, vous êtes motivés, allez voir les écolos, et eux, ils vont vous apprendre quelques trucs. Je pense qu'on est encore, dans ce que je vois, on est encore dans un milieu de la recherche, certes appliquée quand même, mais on est quand même à un niveau élevé de réflexion. Et je pense que ça ne descend pas trop vers le bas. Et le bas, c'est ici déjà, hein. Ça commence la formation. Le bas, ce n'est pas péjoratif. Alors, ce que je dis.
Je commence à répondre après, j'ai passé à mes collègues. Première chose, juste au niveau vocabulaire, c'est le béton, c'est pas traditionnel, c'est conventionnel. Non, mais c'est important en fait, c'est pas de la construction traditionnelle. Ensuite, pour répondre à votre question par rapport à l'enseignement, donc effectivement, l'écologie appliquée, en fait, elle a pas beaucoup encore investi le monde de l'enseignement. Donc il y a des cours à l'école d'architecture à Toulouse, par exemple. Cette année, on est un certain nombre à avoir démarré une formation au CFA Pierre-Paul Riquet pour les maçons. Donc on va leur faire des cours sur la construction écologique en maçonnerie. Cette année aussi, pour la première fois, je vais donner des cours à l'IUT de génie civil pour faire donc sensibiliser les conducteurs de travaux à l'approche écologique dans la construction. D'autres exemples sur mes collègues à Nantes. Donc en fait, ça démarre. Il faut voir qu'il y a encore 5 ans, quand on disait qu'on voulait construire avec autre chose que du parpaing et du béton, les gens se rigolaient en pensant que qu'on voulait les ramener à l'âge des cavernes. Alors qu'en fait, on est en train de les y précipiter. Mais ils avaient l'impression qu'on voulait les y amener. Voilà. Donc je pense que ça va changer, probablement très vite, puisqu'en fait, le contexte a l'air favorable. Et c'est un des rares bons effets du changement climatique, c'est qu'en fait, il fait comprendre que l'écologie... C'est pas que pour quelques chevelus. Vous voyez de qui je veux parler.
Oui, par rapport à ça, enfin, je renchérirai un petit peu. Le problème de l'enseignement secondaire, hein, puisqu'en fait, c'est un peu de cela dont il est question, c'est qu'il hérite, avec un certain temps de recul, vous connaissez bien ça, toujours pareil, un effet d'inertie, des retombées de la recherche. Donc, effectivement, on commence dans un petit microcosme où il est nécessaire que le débat d'idées se mette en place. Et ensuite, ça commence à retomber petit à petit dans le secondaire. Bon, il y a une association qui s'appelle le Club... CM3E, le Club Maîtrise de l'Environnement Énergie Enseignement, qui existe maintenant depuis une bonne quinzaine d'années et qui a été monté à l'initiative de l'ADEME pour justement essayer d'inciter la prise en compte, notamment dans le secondaire, enfin dans le supérieur et dans le secondaire, des nouvelles technologies, des nouvelles approches dans tous les domaines liés à l'environnement, pas uniquement dans le bâtiment. On s'aperçoit malheureusement que c'est très très long à diffuser, effectivement, et très difficile à mobiliser. Il faut voir aussi que dans le secondaire, contrairement à ce qui se passe dans le supérieur, il y a des programmes. Alors on retombe sur les problèmes de la centralisation. Donc il y a des programmes qui sont élaborés à l'échelle nationale et que, à part quelques lycées qui menaient soit par des directions, soit par des équipes pédagogiques un peu dynamiques, à part cela, effectivement, les autres souvent attendent, entre guillemets, qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Et donc là, ça induit effectivement un décalage relativement important. Alors, ceci dit, on voit quand même, enfin bon, nous autour de Toulouse, je suppose que, puisqu'il y a votre fils apparaît dans un lycée apparemment qui est en retraite, on commence à voir que les choses se mettent un petit peu en place. Puis ensuite, il y a des initiatives qui sont plutôt liées à la formation professionnelle aussi. Et donc c'est toujours pareil, comme dans le bâtiment, il y a de l'inertie. Et là, l'inertie n'est pas forcément profitable, contrairement au bâtiment, en tout cas dans nos régions, parce qu'on cherche à avoir de l'inertie, surtout pour le confort d'été. Là, l'inertie est plutôt dommageable parce qu'elle recule, elle fait reculer, mais encore une fois, on ne peut pas tout faire à la fois, donc il ne faut pas non plus trop être pessimiste.
Oui, moi je voudrais réagir parce que moi je pense que ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début. Donc l'habitat du futur, il est directement rattaché à la question de l'habitant, donc les nouvelles générations. Les nouvelles générations qui vont donc être obligées d'une part de gérer aussi un héritage technologique, parce que je pense qu'il ne faut pas les renier. Mais aussi c'est réapproprier donc des matériaux, des savoir-faire, des techniques qui ont toujours existé et qui revient un peu à l'ordre du jour. Donc pour ces nouvelles générations, pour cet habitant nouveau aussi, je ne sais pas si c'est trop risqué de l'appeler comme ça, il y a des formations qui commencent à se faire, en tout cas dans les écoles d'architecture. Moi je parle pour les cas précis de l'école d'architecture de Toulouse, donc en 12e, 3e, 4e année, il y a des modules, mais bon, même à l'intérieur de l'école, on a dû se battre pour vraiment faire accepter cette démarche, cette réflexion autour de la problématique environnementale. Donc, c'est pour ça que je pense que ça doit être rattaché à des initiatives aussi de l'individu. Et dans ce sens, je pense que on peut vraiment construire une dynamique, une inertie qui va faire qu'on pourra atteindre des résultats acceptables pour les générations futures.
Voilà, je crois que c'était une très, très bonne question, effectivement. Et merci pour la réponse. Je crois qu'il y a une autre question pour madame.
J'ai pas une question, j'ai juste un complément à faire à l'interrogation de ce monsieur. Donc, je suis architecte et formatrice dans le centre de formation du bâtiment à Lézignan-Corbières. Et je vais vous répondre tout de suite, il n'y a rien qui est fait au niveau de ça. Et c'est juste des initiatives spontanées de sensibilisation donc aux matériaux qui va se mettre en place dès l'année prochaine et sur la construction aussi. Donc c'est on est sanctionné par des diplômes qui ne répondent pas à ça. Voilà. Donc on émerge des projets, des sensibilisations comme ça qui viennent des formateurs. Voilà. Donc on monte des actions pour sensibiliser les jeunes dans tous les corps d'État, hein, maçonnerie, plâtrier, peintre, menuiserie bois, menuiserie alu, voilà. Hein. Donc ça touche tout le monde. Hein. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui sanctionne. Il y a seulement une formation qui s'est faite avec le Greta de Narbonne sur une formation plomberie aux chaudes solaires. Il y a juste ça. Voilà, qui est sanctionné par une reconnaissance, un diplôme. Voilà. Pour répondre à votre question.
Alors, si je peux rajouter un tout petit mot qui ira vraiment dans ce sens-là, c'est vrai que moi, pendant tout mon cursus scolaire à l'école d'architecture de Montpellier, J'ai eu la chance d'avoir un enseignant, Michel Gerbert, qui était hyper sensibilisé à ça. Sinon, on n'en aurait pas entendu parler pendant 5 ans. Donc, à Toulouse, ils ont la chance d'avoir le Gréco. C'est vrai que, bon, j'étais pas à Toulouse. C'est un très gros souci au niveau... Si le professionnel lui-même, celui qui est vraiment à la source et qui, en plus, va préconiser qu'est l'architecte, n'a pas cet enseignement-là, on se dit qu'il y a une grande partie qui est perdue. Et c'est vrai que là, vraiment, c'est vraiment des initiatives à soutenir évidentes. Mais c'est vrai que je suis pas très vieux, vous pouvez l'imaginer. Pendant mes études, Michel Gerbert faisait partie des gens qu'on regardait de loin en disant bon, c'est le farfelu, etc. Et donc, c'est très très récent, cette prise de conscience. Et d'un point de vue professionnel, c'est vrai que c'est vraiment à l'initiative. Le Gréco, c'est une initiative dans une école d'architecture. Bon, c'est soutenu par l'école d'architecture, mais c'est pas une initiative nationale. Et par contre, pour les plus jeunes, bon, nous, au CAUE, on fait des interventions dans les classes très très jeunes notamment, mais là aussi, c'est ponctuel, c'est plutôt à la demande. Bon, quand on passe, on a des jeunes qui ensuite veulent tous devenir architectes, mais après, ils verront le pompier, ils veulent tous devenir pompiers, c'est évident. Mais c'est vrai que malheureusement, là, il y a un travail très important à faire, parce que la pédagogie est très importante, ça forme les futurs habitants, donc des gens responsables et qui, en plus, savent comprendre les enjeux, et on n'a pas besoin d'être hyper technicien pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre comment on oriente correctement une maison, etc.
On va rester peut-être dans le même domaine.
Juste,
oui.
Excusez-moi, je vous en prie. Faut quand même pas oublier que malgré tout, il s'est passé quand même quelque chose depuis l'année dernière, c'est qu'il y a eu le Grenelle de l'environnement. Dont effectivement on peut dire beaucoup de choses en bien et en mal, mais il n'empêche que malgré tout, ça va générer la mise en place d'un budget de formation relativement important. Alors maintenant, le problème sera de savoir comment il va être utilisé, parce que bon, il est évident que ça va constituer une manne financière pour un certain nombre d'organismes. Qui vont l'utiliser de façon plus ou moins favorable par rapport à cette problématique. Ce que je crains un petit peu, moi, c'est que justement ce soit plutôt orienté vers la formation professionnelle, ce qui est très bien, mais que vers la formation professionnelle. Et pour l'instant, en tout cas, on ne parle pas trop, notamment de l'enseignement ni secondaire, et ni encore moins, bien sûr, primaire, si ce n'est quand il est dit qu'il faut faire une sensibilisation à l'environnement. Mais bon, ça reste quand même de l'ordre du vœu pieux, mais encore une fois, au niveau des programmes, on ne voit pas grand-chose apparaître. Voilà, donc, pour l'instant, par rapport à ces retombées du Grenelle, on attend un petit peu de savoir véritablement comment ça va être utilisé et mis en place.
Il y a un média quand même qui touche toute la population qui s'appelle la télévision. Et en fait, c'est probablement le vecteur numéro un d'information ou de désinformation, suivant le point de vue qu'on a dessus. Mais en tout cas, c'est le vecteur principal par lequel nous arrivent des informations en France et à peu près dans tout le monde où il y a une prise électrique et quelque chose à brancher au goût. Et donc on peut vraiment se poser la question de la manière dont on peut utiliser la télévision pour sensibiliser l'ensemble de la population, jeune, vieux ou au milieu, aux problématiques environnementales. On pourrait par exemple imaginer qu'à la place du tunnel publicitaire après la météo, eh bien on ait un tunnel sur l'environnement, le changement climatique. Au lieu d'avoir pendant 3 minutes ou 4 minutes le détail des prévisions météo dans toutes les bourgades de France, eh bien, on est en état du changement climatique dans le monde, au quotidien. On peut avoir des choses comme ça, très très simples, en fait, pas forcément très coûteuses, et qui, en fait, sensibilisent et permettent à la population de se poser des questions. À partir du moment où on déclenche le processus de questionnement de la population, eh bien, il va y avoir tout un tas d'initiatives qui vont se déclarer toutes seules, en fait. Ça va partir comme un feu de paille, si j'ose parler ainsi. Et ça va se propager. Donc, on a vraiment là, peut-être vous aussi, au niveau de la radio, vous pouvez jouer le même rôle, en fait. C'est très important pour aller toucher les gens au quotidien, parce qu'avoir un cours une fois sur l'écologie, etc., c'est bien. Mais en fait, qu'est-ce qu'il en reste au bout de quelques années de pratique? Il y a eu des architectes qui ont formé à l'architecture bioclimatique ou à l'architecture solaire, puis ils n'ont jamais eu de clients. Donc ils n'en ont pas fait.
Ça risque d'être un feuilleton fantastique.
Ça peut être un feuilleton fantastique, effectivement.
On va parler d'assurance, mais je crois qu'on va rester un petit peu sur le domaine avec monsieur.
Oui, j'aurais deux questions pratiques. Et avant, je voudrais répondre aussi par rapport aux formations. Il y a des choses quand même qui bougent. Par exemple, il y a l'association Batipol dans l'Aude qui va faire des formations de réinsertion professionnelle. Ils ont plusieurs stages qui vont se faire. Ensuite, la CAPEB Aude, un des syndicats des artisans, travaille, fait des formations sur la chaux, la chaux hydraulique, la chaux aérienne, etc. Il y a également sur le pays les Corbières Minervois, il y a une structure, une coopérative d'artisans qui est en train de se créer, c'est pas encore fait, mais qui est en train de se créer, qui font de l'éco-construction, non pas éco-artisans, mais éco-construction, c'est-à-dire qui tiennent en compte les matériaux, etc. Hein, voilà. Et il y a également dans l'Ariège, il y a l'association Écorce qui fait un très gros travail au niveau des particuliers, et également sur l'Aude. Voilà. Et donc, mes deux questions, c'était au niveau des assurances. Je voudrais me construire une maison ossature bois, botte de paille. Mon assureur aurait envie de... Je voudrais la couvrir, quoi. Donc, eux, ils voudraient trouver je voudrais trouver des arguments pour les convaincre. Où c'est que je peux trouver ces arguments à leur apporter? Et deuxièmement, j'ai un client qui voudrait construire une maison écologique. Je l'ai amené visiter plusieurs maisons bottes de paille dans l'Aude. Il y en a, pas mal. Et le problème, c'est que lui, il a choisi l'économie d'abord. Il voudrait le faire en aglo, creux. Et parce qu'il peut se le monter lui-même, ça lui coûtera pas trop cher, c'est pas difficile. Et moi ensuite, je l'habillerai en bottes de paille. Je trouve que c'est pas idiot parce que l'aglo, c'est de l'inertie. C'est quand même pour eux la vapeur d'eau, surtout en intérieur, puisqu'il faut plus s'ouvrir vers l'extérieur. Ensuite, alors, vous dites que côté bilan CO2, c'est pas catastrophique. Alors, est-ce que dans un premier temps, en attendant que... Parce que une maison ossature bois, botte de paille, coûte encore cher si on ne se le fait pas soi-même. Donc, est-ce que c'est pas une transition, peut-être, à faire, à passer par ces matériaux, en attendant mieux?
Alors, je vais vous répondre à double titre. D'une part, à mon titre de coordonnateur de rédaction des règles professionnelles de construction en boîte de paille, au sein du réseau français de construction en boîte de paille. Donc, en fait, la problématique, effectivement, de l'assurance pour les techniques de construction dites alternatives, elle se pose, en fait. Alors, elle se pose pas de manière systématique, contrairement à ce qu'on croit souvent. En France, on peut être, d'abord première chose, en France, quand on est autoconstructeur, que l'on construit pour soi, un bâtiment individuel, on peut le construire comme on veut. Il n'y a pas de matériaux interdits en France, ni de techniques de construction interdites en France. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est pour ça que les autoconstructeurs bénéficient d'une grande liberté. Les professionnels sont assujettis à un certain nombre de règlements, et notamment les règles qui ont trait au fait d'avoir des assurances, et en particulier la garantie décennale et la dommage ouvrage. Alors, on peut avoir une garantie décennale pour une mise en œuvre non habituelle, je vais dire. C'est-à-dire que vous pouvez être assuré, si vous allez voir votre assureur, en tant qu'artisan, en lui expliquant ce que vous faites, comment vous le faites. Vous pouvez vous mettre d'accord sur un contrat d'assurance avec éventuellement un surcoût, mais souvent pas de surcoût. Et le surcoût, c'est environ, en général, 2-3 000 euros par an pour un artisan, ce qui n'est pas gigantesque, pour une mise en œuvre non habituelle. Donc, par exemple, pour la construction en botte de paille. Ensuite, sur le moyen terme, donc au niveau du réseau français de construction en paille, on est en train de rédiger nos règles professionnelles. On a quasiment terminé le travail en interne et on va le présenter à partir du mois de janvier, à peu près, aux autorités, dans un premier temps au CSTB, puis à la commission prévention produits qui représentait les assureurs. On va avoir avec eux un certain nombre de discussions. On va faire des essais au feu, etc., tous les essais réglementaires. Et puis, dans X mois, hein, je pense 1 an à 2 ans pour être sincère, d'ici 1 an ou 2, on aura une approbation, je l'espère, de nos règles de construction en boîte de paille. À partir de ce moment-là, tout artisan qui mettra en œuvre de la paille conformément à ses règles professionnelles aura toute facilité pour s'assurer chez l'assureur du coin. Voilà. Donc, deuxième question, c'était par rapport aux agglos et à la botte de paille. Alors, personnellement, j'ai utilisé de la botte de paille en isolation extérieure sur une maison ancienne en terre. Et ça a très bien marché. Et j'ai un projet de le faire cet été sur un bâtiment en agglo qui existe depuis 20 ans, avec de la botte de paille aussi. Donc, ça ne me semble pas idiot du tout.
Ce sera l'habitat du futur.
Ça sera peut-être l'habitat du futur, mais en fait,
avec
moi,
du matériel que l'on connaissait depuis des années.
Je pense que l'habitat du futur, il est éminemment variable dans l'espace. Un igloo, c'est fabuleux. Oui. C'est fabuleux. On ne peut plus écologique. On ne pourrait pas en construire ici, ça serait absurde. Et construire en paille au pôle Nord, c'est absurde. Donc voilà, l'habitat, il est adapté à son milieu, c'est extrêmement important.
Je crois que monsieur voulait poser...
Ce sont des cas pratiques d'isolation, si vous voulez. Par contre, on parlait tout à l'heure des matériaux du futur. D'après tout ce que vous venez de dire, il semblerait que les matériaux du futur soient les matériaux du passé. Mais ça, c'est à part. Une question simplement sur les qualités d'une maison troglodyte. J'ai vu des personnes qui faisaient ça, qui arrivaient à les construire. Et l'avantage d'une maison troglodyte, c'est qu'effectivement, on dépense peu d'énergie, puisque vous avez, comme dans les grottes, une température constante et un degré d'hygrométrie constant à l'été comme hiver, à peu près. Mais ça, je ne sais pas si vous êtes spécialiste à la question. La seconde question, c'est par curiosité, c'est sur l'habitat ancien, surtout dans la région. Vous avez donc, mettons, dans chaque pièce, enfin, pas dans toutes les pièces, ce sont surtout les pièces qui sont en hauteur et qui sont près du plafond, où vous avez une série de lattes recouvertes de plâtre. Donc, à l'heure actuelle, quand quelqu'un achète une maison comme ça, la première chose qu'il fait, il casse tout, parce que comme c'est trop lourd, ça tombe, il faut refaire régulièrement le plâtre, et il a une hauteur supérieure, il arrive à la toiture, et là, il isole. Alors là, c'est un peu la question que je me suis toujours posée de l'isolation. C'est bien mignon, mais quand on enlève 10 ans après ou 15 ans après, sans jamais avoir regardé la laine de verre qu'on a posée plus ou moins succinctement et qu'on y trouve des cadavres de rats, des tas de cochonneries, des machins absolument pourris, qui auraient pu provoquer effectivement certaines maladies, mais c'est pas ça. C'est pourquoi, à l'époque, on faisait deux choses sur l'habitat. On faisait circuler l'air au niveau de la toiture, du grenier, et généralement, sauf évidemment dans les cas quand vous vous trouvez sur la roche, vous ne pouvez pas, mais généralement, vous aviez une cave, c'est-à-dire un vide sanitaire plus ou moins naturel. Et ceux dont on retrouve la perfection sont dans les châteaux, alors là, il n'y a pas de problème. Vous avez le fameux leuret de jardin, là-haut, une immense charpente, avec une circulation d'air systématique, et pareil pour le sous-sol. Mais ce que je voulais dire, quels sont les avantages de faire une boîte absolument étanche par rapport à ces anciens systèmes? Quels sont les avantages de l'un et les inconvénients de l'autre?
Qui peut y répondre?
Parce qu'il y a quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup de choses. D'abord, sur votre première remarque, hein, que les matériaux du futur sont les matériaux du passé, je vous rappelle qu'après le premier choc pétrolier, en 73, on a parlé des énergies nouvelles. Et les énergies nouvelles, c'était l'éolien, très nouveau. C'était l'hydraulique, très nouveau également. Et c'était le chauffage au bois. Il se trouve qu'aujourd'hui, on les appelle les énergies renouvelables. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, les qualifier d'énergie nouvelle, ça avait un petit côté un peu ridicule. Il n'empêche qu'on est bien conscient aujourd'hui que l'énergie solaire étant la seule qui parvienne actuellement sur Terre, c'est bien avec elle qu'il faudra faire à l'avenir. Et donc, ça a beau être l'énergie la plus ancienne, puisque ça fait à peu près 5 milliards d'années que le soleil brille,
ça n'en reste pas moins pour autant l'énergie du futur. Donc pour les matériaux, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas penser la même chose. Entre autres, d'ailleurs, je voudrais vous dire que par rapport à ça, un des matériaux qui est présenté souvent comme le matériau de la modernité et même du futur, et qui est le verre, est certainement le matériau le plus terrible que l'on puisse envisager au niveau environnemental. Oui, 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 avec des viroirs, oui, tout à fait. Absolument. Donc, voilà, je crois qu'il faut faire un petit peu attention, effectivement, à ces aspects-là, quand on dit matériaux du futur, matériaux du passé. Non, il y a des matériaux qui sont adaptés à des usages et aussi à des préoccupations environnementales, parce qu'on les pose aujourd'hui. Donc, voilà, je voulais répondre un petit peu par rapport à ça. Je laisse à Luc peut-être le soin de répondre à la suite.
Par rapport à votre remarque pour l'isolation des toitures ou le fait de descendre les parties en plâtre ou lourdes qu'il y a dans les toitures, effectivement, avoir en toiture des matériaux lourds, c'est très intéressant pour le confort d'été. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'en Espagne, on ne construit pas des charpentes en bois, on construit des charpentes en béton et on met les tuiles par-dessus. Et ça, l'intérêt, c'est qu'en fait, du coup, on a une charpente qui est lourde et lorsque l'été, la nuit, on ouvre le bâtiment pour le rafraîchir, et bien on accumule de la fraîcheur dans ces parties qui sont lourdes. Et c'est ce qu'avaient compris les anciens. Mais ce qu'ils avaient compris aussi, c'est qu'en général, ils n'habitaient pas sous les toits. Ils avaient souvent un grenier très bien ventilé qui amortissait la température. Et donc nous, à l'époque moderne, on s'est mis à habiter directement sous le toit. Et contrairement à ce qu'on croit, on a beau entasser de l'isolation sur un toit, il continue à y faire chaud, parce que l'isolation, c'est très efficace pour le confort d'hiver. En revanche, contre les périodes de chaleur longues, répétées, ça ne fonctionne pas. Il faut de l'inertie. Donc, en fait, le bon couplage dans ce cas-là, quand on peut se le permettre, c'est d'avoir de l'inertie, c'est-à-dire des matériaux lourds, avec de l'isolation autour, c'est-à-dire de l'isolation à l'extérieur, que ce soit au niveau des murs ou au niveau de la toiture. Il y avait un autre point que vous aviez soulevé, mais je me souviens plus lequel. Ah oui, sur l'habitacle troglodyte, j'ai aucune connaissance particulière. Donc et les vides sanitaires. Alors les vides sanitaires, en fait, ah oui, c'est vrai. Les vides sanitaires, ils ont un inconvénient, c'est qu'ils vous coupent de l'inertie du sol. Et donc, pour le confort d'été, lorsque vous êtes dans un bâtiment qui est bien isolé, c'est dommageable. Alors, et en fait, il y avait aussi une question de vous par rapport au fait de faire des bâtiments très fermés, très étanches, pour obtenir des économies d'énergie. Il faut avoir en tête que dans les bâtiments anciens, on n'avait pas forcément la même manière de vivre. C'est-à-dire que on ne faisait pas du travail de bureau, on n'avait pas d'ordinateur, etc. On était beaucoup moins sédentaire qu'aujourd'hui. On travaillait beaucoup plus à l'extérieur. Du coup, on était physiologiquement beaucoup moins sensible au froid ou à certaines températures. Donc ça, c'est le premier paramètre de confort. Le deuxième, c'est que comme on travaillait dehors, on avait moins envie d'avoir du soleil et de la lumière à l'intérieur. Donc on avait des fenêtres qui étaient plus petites. Et puis on avait des moyens techniques qui étaient différents. Donc on pouvait pas faire des bâtiments très étanches. Et on n'avait pas de matériaux qui soient facilement étanches à l'eau et en particulier à la succion de l'eau par les murs. Donc dans les bâtiments anciens, assez souvent, on a des remontées d'humidité dans les murs. Et donc, il faut les ventiler pour les évacuer. Donc, ça marchait bien dans un bâtiment ancien qui laissait passer l'air un peu de toutes parts. Et enfin, on avait une dernière contrainte qui était embêtante, c'est que pour chauffer ça, il fallait beaucoup d'énergie. Parce que dès qu'on a un bâtiment qui n'est pas étanche à l'air, quelles que soient ses qualités par ailleurs, constructives, il faut quand même beaucoup d'énergie pour le chauffer. Et en fait, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, en France, la forêt était en très mauvais état. Elle était en très mauvais état parce que c'était la principale source d'énergie avec le charbon. Et on était à l'époque qu'une trentaine de millions d'habitants. J'ai plus le chiffre en tête, mais on était à peu près moitié moins d'habitants qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de vivre comme on vivait il y a un siècle. Tout simplement parce que la quantité de population sur Terre est beaucoup plus grande. Ce simple fait-là nous force à être plus économes. Et en plus, il se trouve qu'on sait le faire technologiquement, sans délirer sur le plan technique, et qu'on sait faire des bâtiments étanches à l'air, mais confortables si on les construit convenablement, avec ce qu'on appelle, entre autres, des parois perspirantes, etc. Mais en fait, ce n'est pas le moment de rentrer dans ce genre de détails.
Il nous reste 5 minutes avant de conclure pour ce débat qui, effectivement, je crois qu'il y a encore plein de questions qui pourraient être posées. Mais je voudrais juste vous signaler que c'est la fête de la science dans l'Aude jusqu'au 23 novembre. C'est à Broham, c'est à Carcassonne, à Gruissan et à Lézignan-Corbière. Et puis, vous rappeler aussi que il y a, avec notre partenaire libraire Bretto, qu'il y a une liste d'ouvrages disponibles sur la construction de maisons, sur le chauffage à bois et tous ces sujets dont on a un petit peu abordé ce soir. La dernière question, avant de se dire au revoir pour cette troisième édition, et j'espère que vous serez nombreux aussi pour le mois de février prochain. Dernière question.
Non, mais moi, je voulais dire que c'est une question sociale, parce que les gens, à l'heure actuelle, là, ils se supportent de moins en moins, disons, dans la société éclatée qu'on est, mariage éclaté, travail éclaté. Donc les gens, maintenant, ils vivent à un ou deux, par appartement ou par maison. Alors qu'avant, c'était il y a 50 ans à peine, c'était plutôt 5 là ou 10. Et donc, ça engendre beaucoup plus de frais. Et c'est une question pour le politique aussi, puisque depuis les années 80, là, on nous rabâche les oreilles avec la société individualiste. Soyez individualiste, démerdez-vous, prime au rendement, etc., etc. Et ça bousille quoi, toutes les solidarités. Et donc les gens, évidemment, ils ont peut-être des appartements beaucoup mieux qu'avant, mais ils sont un peu isolés. Quoi.
Voilà, oui. Peut-être que madame, vous voulez... Oui, madame.
Soi-disant conditions de vie plus agréables, je pense, sont à l'origine de la cause justement du fait que les personnes ne se supportent plus. Plus c'est facile, moins on a besoin de l'autre et donc à ce moment-là, on le supporte moins.
En tout cas, j'espère qu'on s'est bien supporté aujourd'hui et qu'on a eu du plaisir à se retrouver ce soir. Et on aura peut-être l'occasion de vous retrouver sur d'autres sujets qu'on va préparer toute l'équipe du pays carcassonné. Vous voulez peut-être avoir le mot de la fin? Pardon, je vais...
J'ai même donné le mot de la fin. Juste une petite remarque. Les politiques, aujourd'hui, ont pris conscience que nous utilisons notre patrimoine de territoire. Il existe un schéma régional d'aménagement du territoire jusqu'en 2030. Autre chose, il n'y a pas qu'en Finlande et ailleurs qu'on fait de l'écologie. À Narbonne, il va y avoir un lotissement écologie, un des plus performants du monde, que Narbonne est en train de prévoir. Autre petite réflexion, il faudrait que les communes se mettent en tête de classer leur village en ZPPUP. Si quelqu'un peut en parler vaguement, ça serait très intéressant pour les terrains. Autre petite réflexion du schéma d'aménagement régional, on va se réjouir, les lotissements vont réduire dans les années à venir, puisqu'il est prévu sûrement, que la plupart des bâtiments à plus de 3 km du centre de travail va perdre 50% de sa valeur. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui construisent des lotissements à 10 km de la ville vont perdre leur capital. Il faut le dire, à cause du prix du pétrole et des transports. Ça a été dit au schéma d'aménagement régional.
Oui, monsieur.
Bon. Je vais d'abord aborder la question de la ZPPAUP parce que donc c'est un terme. Donc zone de. Oui.
S'il vous plaît, on écoute, monsieur Barès.
Les ZPPAUP, donc pour vous expliquer très rapidement ce que c'est, vous savez que quand vous avez un bâtiment qui est classé monument historique, vous avez un fameux rayon invisible de 500 mètres tout autour, et quand vous êtes dedans, vous êtes réglementé, enfin l'architecte des bâtiments de France donne un avis, et évidemment que ce rayon étant invisible, il est parfois il y a parfois des conséquences qui sont qui n'ont aucun lien avec le bâtiment qui est protégé. Donc l'idée de la ZPPAUP, c'est d'établir un périmètre absolument défini de protection à l'intérieur duquel va être établie une règle, mais une règle qui, en tout cas, moi je peux vous le dire, parce qu'actuellement il y en a une qui est en cours de fabrication à Gruissant. C'est une règle qui est établie avec le CAUE, avec le SDAP, mais avec beaucoup de... Il y a un comité de pilotage qui est très large, et avec les habitants bien entendu, avec les différentes associations, avec les élus bien évidemment, puisqu'ils sont les instigateurs. C'est très difficile pour les élus, parce qu'il y a certains élus qui perdent leur place, parce qu'ils mettent des ZPPAUP en place. La raison la plus simple, c'est que dès qu'on voit des règlements, on se dit « Ouh là là, je ne vais pas pouvoir faire mon petit bricolage que je souhaitais faire sans que personne le voie », alors qu'évidemment que la ZPPAUP, c'est penser à tout le monde. Avant de penser à soi, donc ça ne plaît pas à tout le monde. Alors là...
Des capteurs solaires.
Là, écoutez, on est toujours en discussion. Ça sera très difficile. C'est-à-dire que l'architecte des bâtiments de France va vous rétorquer, le territoire autour de la ZPPAUP est assez large pour qu'on puisse répondre, mais on y viendra, c'est une évidence. Non ? Non, non, il dit équipons déjà ce qui existe, donc on va déjà faire des économies conséquentes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a eu, je ne veux pas défendre les bâtiments de France, mais on a l'impression qu'il y a une focalisation sur l'ancien où là on n'a pas le droit de faire. Bon, c'est vrai que pour l'instant on n'a pas le droit de faire, on espère que ça va évoluer. Nous on est pour, c'est une évidence. Mais encore une fois, je vous dis, la difficulté c'est comment c'est fait. Parce qu'on peut massacrer un site ancien en faisant une très mauvaise intégration architecturale. Donc ça, c'est subjectif. Écoutez, si on fait 5 ans d'études, j'espère que c'est pas pour rien.
Merci. Juste pour terminer, une remarque par rapport aux
aides de PPAUP, etc. En fait, le problème, c'est qu'on a une logique de un peu comme pour les zones naturelles. C'est-à-dire, il y a des petits endroits en France où on n'a pas le droit de polluer. Tout le reste, on y va. En fait, ça devrait être le contraire. On devrait être plutôt tous en zone protégée et il devrait y avoir peut-être quelques endroits très définis où on a le droit de polluer et dans des conditions très strictes. Et en fait, c'est là-dessus qu'il y a vraiment un renversement culturel à faire sur notre rapport à ça. Voilà. Passer le social, oui, tout à fait.
Merci beaucoup, monsieur, dame. Et puis, rendez-vous pour un autre débat, un autre sujet avec le pays carcassonnais. Le bar des sciences, c'est quelque chose qui apparemment vous plaît. On en est ravis. À très bientôt. Bonne soirée. Je vous rappelle que vous pourrez écouter ce débat sur le site de Pays Carcassonnais. Merci beaucoup. Rentrez bien et à la prochaine.